Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Là, tu vois, il m'a dit, tu vois ta réaction là, le fait de dire je vais aller faire autre chose parce qu'en France, il n'y a rien. Et bien en fait, tous ceux qui sont passés avant toi, ils ont réagi comme ça et c'est pour ça qu'il n'y a rien. Et ça a été vraiment, ça m'a beaucoup bousculé. Et il dit, mais s'il n'y a rien, et ben il faut faire.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, Amin.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mohamed Rahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, très bien de mon côté et toi-même.
Écoute, ça va super. On parle un petit peu de nos occupations actuelles. On est pas mal pris de côté. Alhamdoulilah, on a pu trouver un créneau, je suis content. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, Inch'Allah, dont beaucoup de gens m'ont demandé, notamment les expatriés et les gens qui pensent à s'expatrier en termes de finances. Et Alhamdoulilah, je suis content d'avoir cette discussion avec toi. Alors, pour commencer, Amine, je vais te demander de nous faire une petite présentation rapidement de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement.
Yes. Ah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, donc moi c'est Amin Naït Daoud. J'ai 36 ans aujourd'hui. Je suis marié, deux enfants. Je suis né en région parisienne et j'y vis aujourd'hui. Mon parcours, pour faire simple, ça a été des études en finance, donc en économie dans un premier temps. Et puis en finance, donc j'ai passé un master en finance, plutôt finance de marché. Mmh. Et puis ensuite un master en finance islamique. Ça, c'était en 2008 à l'époque, 2008-2009, c'était le premier master en finance islamique ou les executive MBA pour être plus précis qui avait ouvert en France, donc en l'occurrence à Strasbourg, à l'université de Strasbourg.
Mmh.
Et en fait, après ça, donc j'ai quitté la France, donc j'ai rejoint les équipes, enfin l'équipe en fait dédiée à la finance islamique d'une grande banque, on va dire internationale, pour ne pas citer de nom, une banque française mais internationale, à Londres. Donc j'ai fait un petit bout de chemin aussi à Londres jusqu'à l'été 2010. Et puis en fait, donc entre-temps, en parallèle de cela, si tu veux, moi, en fait, quand j'ai dans mes études, à partir de la licence, donc j'étais licence en économie et gestion, à la fin de la licence, on doit choisir, en fait, il y a des choix d'orientation qui se font. Et puis, à ce moment-là, moi, je me posais la question de la finance, puisque c'était l'économie très intéressant sur le fond. Mais voilà, quand on est étudiant en licence, quand on pense à économie, tout de suite, on pense à enseignement, recherche. Tu vois le pull en laine, le jean, etc., le vieux jean,
ouais.
Et le pull en laine, tu vois, c'est pas super attractif. Et à côté,
ouais.
On nous parle de finance, tu vois, c'est les grandes places, c'est la city, etc. Donc ça a l'air beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus attractif, et puis autant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue carrière, que d'un point de vue financier, etc. Donc forcément, on s'intéressait tous à ça et on voulait tous aller vers les filières les plus techniques, etc., pour aller faire de la finance de marché, le rêve de devenir trader, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai eu la chance, subhanallah, d'avoir en fait un imam qui parlait déjà à l'époque, alors qu'on là, je remonte à tout ça, ça remonte à 2005, 2004, 2000, voilà, c'est vraiment ça remonte. À l'époque, très peu de gens parlaient de la finance islamique.
Ouais.
Très peu de gens parlaient de manière générale du riba, de l'intérêt, des méfaits du riba, de quelles sont les alternatives qui peuvent exister, etc. Très, très peu de gens en parlaient. Déjà, aujourd'hui, peu de gens en parlent, mais c'est quand même beaucoup plus, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus présent, on va dire, dans le quotidien de la communauté musulmane que ça l'était il y a 20 ans.
Ouais.
Mais voilà, j'ai eu la chance de tomber sur l'imam qui était peut-être un des pionniers, enfin je pense un des pionniers en la matière, qui est Cheikh Mohamed El-Bachir Ulsace, qui encore aujourd'hui est l'un des chouïrs les plus, l'un des savants les plus éminents en France sur la question de la finance islamique. Et en fait, il faisait le khotba, tu sais, pas loin de chez moi, et moi je l'entendais régulièrement, il parlait de ça, et je me disais, mais j'entends ça nulle part, en fait, de quoi il parle. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je me suis intéressé à la matière. Et puis un jour, par rapport au choix d'orientation, je suis allé le voir parce que je me suis dit, mais trading, banque, tout ça, banque d'investissement, bon, quand même, il y a des choses pas nettes. Et il y avait beaucoup de connexions qui se faisaient entre ce que j'entendais de ses discours et ce que je voyais à l'école. Donc, on va dire, le dilemme, il commençait à être de plus en plus présent. Et donc, je suis allé le voir tout simplement et je lui ai dit, voilà, je lui ai demandé conseil. Et lui m'a répondu d'une manière assez, et ça a été vraiment, je veux dire, une étape charnière pour moi, parce que en fait, il m'a dit une chose. Il m'a dit, bah, c'est simple, t'as très bien compris du coup que cette filière, elle te mène vers des chemins tortueux. Moi, mon conseil, c'est tout simplement, fais de la finance, mais fais de la finance islamique. Oriente-toi vers la finance islamique. Et là, quand il m'a dit ça, il m'a dit avec une simplicité vraiment déconcertante. Et là, je lui ai demandé, mais cher, mais de quoi il s'agit concrètement? Moi, là, je vais aller faire un master, mais M1, M2, je vais faire des stages. Après, je vais chercher un boulot. Concrètement, je vais où? Je vais toquer à la porte de qui? Je vais déposer mon CV chez qui? Je lui ai dit, mais il n'y a pas de finance islamique aujourd'hui en France. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, bon, de deux choses l'une, il y a l'étranger, donc ça, c'est une chose. Mais pour ce qui concerne la France, là, tu vois, il m'a dit, tu vois ta réaction là, le fait de dire, je vais aller faire autre chose parce qu'en France, il n'y a rien. Et ben en fait, tous ceux qui sont passés avant toi, ils ont réagi comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ouais, et ça a été vraiment, ça m'a beaucoup bousculé. Et il dit, mais s'il n'y a rien, et ben il faut faire. Parce que quand il n'y a rien, c'est le moment où il faut œuvrer, où il faut faire. Et voilà, et subhanallah, ça a été vraiment un déclic. Et ces paroles-là qui résonnent depuis presque 20 ans maintenant et qui sont vraiment un moteur pour moi au quotidien. Du coup, alhamdoulilah, bah, dans la foulée, donc j'ai gardé ce cap-là, Master 1, Master 2, j'ai fait des stages qui m'ont permis à chaque fois, même en banque, en fait, finalement, de toucher d'assez près le sujet de la finance islamique. Et puis ensuite, après quand j'ai commencé le master de finance islamique à Strasbourg, la banque chez qui j'avais fait mes stages m'a contacté en cours d'année pour me dire qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à Londres, donc en finance islamique. Et comme ils savaient que je me passionnais pour la question, donc ils m'ont contacté. Bah, ni une ni deux, j'ai fait mes valises et voilà. Et donc j'ai débarqué à Londres. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. En parallèle de ça, on avait en fait, il y avait une association en France qui s'appelle l'association EIDIM, qui a ouvert ses portes, qui a démarré ses activités en 2005 avec pour objectif de promouvoir une alternative éthique et saine et durable en matière de finances en France. Et j'avais rejoint moi l'association depuis pas mal d'années, depuis les débuts en fait quasiment. Donc en fait, il y avait un travail qui se faisait en France à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la communauté musulmane, là c'était plutôt un travail de sensibilisation, de pédagogie, voilà, pour faire prendre conscience aux gens de la gravité du riba, de ses méfaits, de quelles sont les alternatives qui peuvent exister, etc. Et puis, d'un autre côté, donc, il y avait aussi un travail de pédagogie, mais plus sous un angle, on va dire, de lobbying auprès des décideurs économiques, politiques, etc., pour faire valoir le fait qu'une demande existe en France, qu'elle est peut-être silencieuse par endroit, mais qu'elle est bien présente et qu'il serait bon de pouvoir y répondre, tout comme en fait nos voisins anglais y ont répondu dès 2004, notamment avec l'ouverture de la première banque islamique de détail en Angleterre, à l'époque qui s'appelait Islamic Bank of Britain, qui aujourd'hui s'appelle Al Rayan Bank, qu'elle a été à plusieurs reprises recapitalisée, mais dernièrement, en tout cas, on va dire avec la banque Masraf Al Rayan, qui est une des grandes banques islamiques du Qatar, qui a recapitalisé, donc le nom a changé. Quoi qu'il en soit, ça a été vraiment aussi un déclic en France de se dire, mais en 2004, il y a une banque de détail qui ouvre en Angleterre, et nous, la communauté musulmane en France est nombreuse, plus nombreuse en tout cas en proportion que la communauté anglaise. Et ils ont une banque, quoi. C'est quand même un truc incroyable. Ils ont une banque islamique, quoi. Ils peuvent aller ouvrir des comptes, placer leur argent, financer leurs projets, etc. C'était quand même une vraie secousse pour nous. Et on s'est dit qu'il fallait démarrer ce travail. Et ça a démarré comme ça. Donc ça s'est fait en parallèle. Et du coup, bah moi, voilà, d'un côté, je faisais mon bout de chemin au niveau professionnel. De l'autre côté, bah, j'étais actif dans l'association avec un certain nombre de membres que d'ailleurs tu connais, que certains, je pense, dont certains sont intervenus aussi à travers des podcasts avec
Ouais.
toi, etc., des bookers, Anas, etc. Et voilà, et en 2010, donc il y a eu cette première, il y a eu même 2008, il y a eu le groupe de travail qui a été mis en place par le ministère à l'époque, sous l'égide de Christine Lagarde, ministère de l'économie et des finances, qui aujourd'hui préside la Banque centrale européenne. Et à l'époque, c'était M. Sarkozy donc, qui était président. Et donc, on était passé par la crise de 2008. Il y avait une volonté de, on va dire, d'ouvrir un petit peu le marché français à des investissements étrangers, et notamment on va dire, les pétrodollars, qui avaient bien résisté à la crise et donc qui avaient l'air d'être, on va dire, disponibles, mais voilà, pour lesquels l'État français pensait qu'il était judicieux de proposer différents canaux, et notamment celui de la finance islamique. Donc on a été sollicité sur ces questions-là et on y allait avec une, quand je dis on, c'est l'association Edim, hein, on y allait avec une intention, on va dire, de bah, non seulement de faire avancer les choses pour la France dans ses projets voilà, de financer des grands projets d'infrastructure ou de le Grand Paris, etc., à travers des investissements étrangers, mais aussi et surtout, je dirais, pour nous, d'ouvrir en fait finalement la voie à, au moins dans un premier temps, instaurer un cadre juridique, fiscal, réglementaire propice au développement de la finance islamique en France pour les particuliers. Donc, alhamdoulilah, ça a apporté ses fruits puisque dès 2009, les premières publications officielles donc des instructions fiscales a eu lieu. Et puis ensuite en 2010, la deuxième version. À ce moment-là, ça a fait pas mal de bruit. Donc les gens nous contactaient, tu vois, au niveau de l'association, ils nous contactaient de tous bords. Ouais, je veux déposer mon dossier, je veux acheter une maison, je veux placer mon argent. Et ça, ils disaient, mais on est une association, il y a rien à faire. Enfin, on a juste, alhamdoulillah, on a pu œuvrer, on a été peut-être un des contributeurs qui ont permis qu'il y ait un cadre aujourd'hui. Mais c'est comme s'il y avait un terrain, mais il n'y a pas de joueurs. Il y a un terrain, il y a un ballon, il y a des lignes, des cages. À la rigueur, il y a un arbitre, mais il n'y a pas de joueurs. Donc il faut maintenant que des acteurs du marché, des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion d'épargne, etc., voilà, se lancent. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ce sera, Inch'Allah, la prochaine étape. Donc, voilà. Et puis, en 2010, on a eu l'opportunité, grâce à un sportif de haut niveau qui nous a sollicité pour un projet immobilier. Il me dit, voilà, j'ai vu ce que vous faites, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider ou vous pouvez m'apporter une solution? Je voudrais financer une acquisition avec un financement sans intérêt, conforme à l'éthique musulmane.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et là, on s'est dit, bah, bingo, on va essayer d'aller toquer à la porte, en fait, des banques et entre guillemets, les appâter avec un super dossier. Et puis peut-être par cette voie, ouvrir une brèche. Et alhamdoulillah, c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été le début de l'aventure, on va dire 2010. À ce moment-là, moi j'étais à Londres, Anna c'était ici à Paris. Donc m'a contact m'a voilà, il m'a dit, écoute, c'est le moment. Enfin, si on voit clairement que si on se lance pas, si on les gros acteurs, banques, sociétés de gestion d'épargne, compagnies d'assurance, ils feront rien en fait tout seuls. Ils ne feront pas tout
Ouais.
seuls. Il faut qu'il y ait le petit poisson pilote, tu vois.
Ouais.
Qui vient un peu voilà, leur indiquer le chemin et les aider à apporter aussi l'ingénierie, tu vois, l'expertise, parce qu'ils n'en
Ouais.
ont pas, même
Mâcher le
si,
travail un
comme
petit
j'ai
peu.
dit, exactement, leur montrer la voie, structurer les produits, parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ont des équipes, tu vois, à l'étranger, que ce soit dans le Golfe ou à Londres, maintenant au Maghreb, hein, en Afrique, même de manière générale, ils ont des équipes à travers leurs filiales, etc., qui opèrent dans le domaine de la finance islamique. Mais voilà, l'expertise franco-française, elle est quand même particulière parce que c'est un terrain de jeu spécifique au niveau légal, au niveau réglementaire, au niveau aussi du public, de la clientèle cible, etc.
Ouais.
Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. C'était l'été 2010. Et puis voilà, donc ça fait un bout de chemin parcouru aujourd'hui. Je vais pas te faire toute l'histoire, ce serait trop long. Mais aujourd'hui,
Ouais.
vu la photo un peu instantanée d'aujourd'hui, ou si je devais décrire les grandes phases, on va dire, c'est la phase 1, c'est jusqu'à 2018, c'est le financement immobilier. Donc, focus sur le financement immobilier, puisque c'était le premier besoin exprimé par la communauté ici, et c'était celui-là. Donc, on a mis vraiment l'emphase dessus. Ça a pris quand même un certain temps. En parallèle, ensuite, on a essayé de se lancer sur les produits d'épargne. Les premières années, ça a été compliqué parce que on avait vraiment à cœur de lancer quelque chose qui colle vraiment aux besoins des gens et non pas juste lancer un produit pour lancer un produit. Et ça a pris du temps. Donc 2018, c'est la phase 2, je dirais. La phase 2, c'est fini le 510 CDI où c'est que du crédit immobilier conforme à l'éthique aux humains, du financement immobilier halal. Ça a terminé. Maintenant, il y a aussi les produits d'épargne. Donc maintenant, on peut épargner et financer ses projets immobiliers avec 510 CDI. Ça, c'est 2018, on va dire jusqu'à aujourd'hui, globalement. Voilà, donc épargne et financement immobilier. On a un peu plus d'une trentaine aujourd'hui. Nos locaux sont à Paris. On a quelques agences en France, un réseau aussi de conseillers financiers indépendants un peu partout qui pour mailler le territoire et apporter la proximité qui est attendue par nos clients. Voilà, et la phase 3, c'est ce qu'on a démarré plus récemment, où là, c'est le pôle patrimonial. Ben, c'est là, c'est comme ça que quand on a discuté tous les deux, tu me dis, tiens, c'était sympa de parler à ces gens-là parce qu'il y a une vraie demande et c'est bien que vous ayez lancé quelque chose dans ce sens. C'est la gestion de patrimoine. Voilà, où là, donc, à travers une marque dédiée, donc c'est moi qui chapeaute ce projet-là. Qui s'appelle Connexcap Patrimoine. Et donc là, c'est une équipe dédiée de 8 personnes aujourd'hui, où en fait, on accompagne des clients qui ont des problématiques un peu plus spécifiques, qui nécessitent une expertise un peu plus poussée au niveau de la gestion de patrimoine. Et donc là, on parle notamment des expatriés, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et également donc les médecins, profession libérale acteurs de la santé, les sportifs. Moi, je m'occupe, à titre personnel, je m'occupe des sportifs de haut niveau et les chefs d'entreprise. Voilà, globalement, c'est à peu près ça.
D'accord, Fix,
Voilà.
je te remercie, Amine.
Je fais quoi?
Voilà, donc comme tu l'as mentionné, et comme je l'ai mentionné au tout début d'ailleurs, dans cet épisode, on va plutôt se focus sur le côté épargne, mais pour des profils voilà, qui soit sont déjà à l'étranger ou qui pensent aller à l'étranger ou qui pensent revenir de l'étranger et qui ont des questions par rapport à leur gestion du patrimoine et investissement et tout ça. Pour tout ce qui est investissement, depuis ceux qui sont déjà en France et qui veulent investir en France depuis la France, j'ai fait un épisode avec Hassan Nassiri, ton collègue. C'est l'épisode 124, donc j'invite les auditeurs à se rediriger vers cet épisode pour tous les détails. Voilà, pour ce type de profils qui sont déjà en France et qui veulent investir en France. Il y aura beaucoup de détails dans cet épisode-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Amine, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à l'épargne pour les expatriés, pour n'importe qui d'ailleurs, et pourquoi s'intéresser en particulier à l'épargne dite éthique ou islamique?
Ouais, très bon point. Alors déjà, ce qui est intéressant de constater, donc ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec les expatriés, c'est qu'on a quand même globalement deux profils. On a ceux qui s'y intéressent déjà et ceux qui, on va dire, qui n'ont pas pris le sujet à bras le corps. Au final, ceux qui n'ont pas pris le sujet à bras le corps et qu'on va conscientiser, on va essayer de conscientiser, de bousculer un petit peu sur ces questions-là. On va revenir au final autour de quelques questions clés qui sont notamment donc quand on revient à la question des objectifs. Pourquoi est-ce que finalement on épargne, ceux qui le font, qui investissent, qui épargnent, etc. Pourquoi ils le font? Ça tourne principalement autour de trois sujets pour moi, de ce que j'ai observé. Premièrement, c'est tout ce qui va concerner la retraite. Puisque quand on s'expatrie, bien on va dire il y a des avantages, des inconvénients. Et donc souvent il y a cette problématique de retrait, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de parachute à ce niveau-là. Certains cotisent à la CFE en France, d'autres ont des dispositifs privés auxquels ils vont recourir dans leur pays d'expatriation. Mais voilà, globalement, on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pris ce sujet en main. Et donc, bah, ils avancent dans leur carrière, dans leur vie personnelle, etc. Et souvent, la vie des expatriés, ça bouge beaucoup, parce qu'il y a aussi la distance avec la famille qui fait que bah, les moments où il y a de la disponibilité, bah, c'est orienté vers la famille. Ils bossent beaucoup aussi. Souvent, leur rythme, il est assez effréné. Il y a la famille qui se construit et tout. Donc, ils ont souvent même pas le temps, en fait, de trop se concentrer sur ces sujets-là.
Ouais.
Et donc, ça, c'est ce qu'on observe. Le premier point pour moi, le premier sujet, c'est la retraite. Le deuxième sujet, c'est les enfants. Les enfants, ça revient énormément. Donc, notamment, la préparation de ce qui va, on va dire, après les études supérieures. Globalement, c'est souvent là le principal focus. Comment se préparer pour les études supérieures, puisque bon, pareil, même chose, on quitte la France, on a quand même un système éducatif qui reste aujourd'hui, même s'il y a beaucoup, il y aura probablement beaucoup à redire, mais on va dire que globalement, on est quand même plutôt bien loti avec des écoles où voilà, si on a des bons résultats, etc., sur mérite, il y a possibilité d'intégrer de très bonnes écoles avec au final un rapport, on va dire, qualité-prix qui défie toute concurrence. Forcément, quand on n'a plus accès directement à ça, ou qu'on envisage parfois, bon, juste les gens ne veulent pas forcément envoyer leurs enfants étudier ici, ils veulent leur donner l'opportunité aussi d'aller avoir une exposition internationale encore plus large, d'aller peut-être étudier en Angleterre, aux États-Unis ou autre, tout de suite, en fait, on est sur des budgets qui sont très conséquents. Et forcément, en termes de planification, c'est essentiel de s'asseoir et de poser ces sujets-là. J'ai trois enfants, il y en a un qui a 5 ans, l'autre qui a 8 ans et le plus grand qui a 11 ans. Ben voilà, mon horizon temporel, il est déjà défini. J'ai du 13 ans sur le premier, j'ai du 10 ans sur le deuxième et j'ai du 7-8 ans sur le troisième. Ça y est, j'ai mon horizon. Donc à partir de là, il faut que je me dise, très simplement, en logique mathématique de base, j'ai besoin d'un capital de X à horizon Y années. Et voilà, et la variable qu'on va chercher à définir, c'est qui nous reste à définir, c'est combien je vais placer et qu'est-ce que ça va me rapporter en taux de rendement pour pouvoir atteindre ces objectifs au niveau
Ouais.
capitalistique. Donc c'est une problématique qui est très très présente chez les expatriés. Et après le dernier
Ouais.
point, le dernier que je vois, c'est la valorisation, ce qu'on appelle nos valorisations du capital. C'est parfois tout simplement, c'est aussi basique que ça, c'est de se dire j'ai de l'argent qui dort en fait. J'ai de l'argent qui dort, soit j'ai pas d'objectif déjà bien défini, soit les objectifs que j'ai définis tels que la retraite ou les enfants, en fait j'ai déjà pris mes dispositions par rapport à ça. Maintenant j'ai de l'argent en fait en surplus, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux pas que ça dorme. Voilà, il y a l'inflation qui court, il y a Zakatoul Mal qui passe tous les ans me faire le petit rappel. Comme quoi, voilà, qui m'incite, on va dire, à faire circuler mon argent dans l'économie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Comment valoriser ce capital? Voilà. Moi, c'est les trois gros sujets que je vois en règle générale.
Ouais. Alors, encore une fois, avant d'entrer dans les détails, je vais traiter un peu des sujets de fond. Moi, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a, je vois en gros deux extrêmes de types de personnes quand on leur parle d'investissement. Et après, il y a tout ce qui est au milieu, hein, bien sûr. Mais on va dire qu'il y a l'extrême des personnes qui se connaissent un petit peu quand même, qui travaillent déjà dans la finance ou en tant qu'expatriés, ils sont exposés à un environnement où les gens investissent, du coup, ils apprennent. Mais ils se posent pas trop de questions sur, halal, haram, ils investissent, voilà, il peut y avoir des intérêts, mais tant pis, il y a que ça, et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, un extrême. Et il y a l'autre extrême de ceux qui disent, non, mais ça sert à quoi d'investir? Je veux pas participer à cette économie capitaliste. Ça sert à rien d'investir. C'est pas ça l'esprit de l'islam, etc. Et voilà. Donc, est-ce que tu as, voilà, comment tu réagis par rapport à, est-ce que déjà tu es d'accord à ce type de profil? Comment tu
Oui,
réagis?
100%. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est très, très intéressant, hein, cette problématique-là. C'est très, très intéressant et c'est très profond. Parce qu'en fait, ça renvoie à notre éducation, ça renvoie à nos références aussi. Et effectivement, on constate ça, d'une part. En fait, on a l'impression qu'il y a un conflit entre, d'une part, le fait de chercher à investir, donc d'une certaine manière, de chercher à s'enrichir, d'une certaine manière, du coup, de chercher à. Enfin, on a l'impression que c'est une manière de s'attacher à la dunya, à la vie d'ici-bas, et que, du coup, ça nous éloigne, en fait, de nos aspirations spirituelles, etc. Et donc, ça nous éloigne, en fait, de notre relation verticale avec notre créateur. On a vraiment cette impression-là que. Tu vois, le mythe de Zohd, de vraiment de l'ascétisme, tu vois, c'est comme ça, c'était la perfection, et du coup, plus on s'éloigne de ça, c'est l'extrême, et donc l'autre extrême, c'est dès que je m'en rapproche, ça me fait peur. Alors que,
Typiquement,
effectivement,
juste un petit détail pour donner des exemples. Typiquement, dans des groupes, et certains groupes, ou les, voilà, des groupes sur Facebook et tout, à l'époque, je regardais, il y avait certains posts, les gens disent souvent, j'ai 30 000 euros à investir, je ne sais pas quoi en faire, des conseils. Et tu vas voir un cas, un cas de type de personne qui va dire, achète un puits, fais gagner des hassanets, etc.
c'est
Et l'autre
ça.
qui va dire, investis dans l'immobilier, achète un bien avec des intérêts, peu importe, c'est pas grave. Ça va être les deux types de commentaires que tu
Voilà, c'est
retrouves.
ça.
C'est marrant.
Exactement. C'est très correct. C'est-à-dire que si tu devais prendre une centaine de commentaires comme ça, une distribution de 100 commentaires, bah en fait, tu aurais effectivement ces deux pôles. Et puis après, finalement, le juste milieu, qui est censé, qui doit être notre voix, bah en fait, est très peu représenté. On va pas avoir cette notion de, bah en fait, d'un côté, le fait de, je reviens finalement à ce que je disais juste avant. Tu vois, la dernière fois, j'étais dans une intervention, il y avait pas mal de monstres, beaucoup un public de médecins, etc. Et j'ai posé une question, je leur ai dit, mais est-ce que vous connaissez qui dans la salle? Il y avait peut-être 300 personnes. Je dis, qui dans la salle connaît Othman ibn Affan, radhiallahu anhu? Qui dans la salle connaît Abu Bakr as-Siddiq, radhiallahu anhu? Qui dans la salle connaît Abdurrahman ibn Auf, radhiallahu anhu? Etc. Et en fait, la plupart connaissent, on connaît ces gens-là. On connaît ces modèles, on les connaît. Et donc, tout le monde sait que ces personnes-là étaient et sont les meilleures personnes qui aient foulé cette terre et en même temps des personnes qui étaient riches. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit en fait. Il n'y a pas de conflit entre sa foi et la richesse. Du coup, la question se pose de pourquoi finalement donc on associe à ce chemin d'aller vers l'enrichissement, se constituer un patrimoine, développer son patrimoine, etc. Pourquoi on l'associe à quelque chose de négatif d'un point de vue de la foi, d'un point de vue de la spiritualité? Moi, ma conclusion, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on y associe, ce sont les moyens qui, dans notre esprit, sont mauvais, et du coup, finalement, on a mis tout ça dans le même panier. Comme historiquement, on n'avait pas des solutions conformes à l'éthique musulmane pour aller sur ce chemin-là de manière apaisée d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de sa foi, et ben finalement, on a associé. Et c'est comme si on se disait qu'on avait que deux options. C'est soit on choisit l'ascétisme, je caricature un peu, soit on choisit l'ascétisme, soit on choisit l'enrichissement, mais d'une manière qui est haram. Alors qu'aujourd'hui, alhamdoulillah, et depuis plusieurs années maintenant, eh ben, il existe une troisième voie qui est celle du juste milieu où, alhamdoulillah, on peut développer son patrimoine d'une manière qui soit conforme à son éthique. Et maintenant, il y a un petit chemin quand même à parcourir pour ceux qui avaient opté pour l'ascétisme. Il y a un petit chemin en fait à parcourir pour se réapproprier ces sujets-là et se dire que voilà, moi je vais y aller et je vais m'y aller à fond. Mais par contre, je vais faire comme les compagnons. C'est-à-dire que donc ça veut dire deux choses principalement. Premièrement, ça veut dire ne déroger à aucune règle, ne déroger à aucune règle de dîn. Donc les règles de conformité, les principes de la finance islamique, etc. Ils sont connus ou si on les connaît pas, on peut s'y intéresser et les apprendre au moins les bases pour avoir les bons réflexes quand on est face à des possibilités qui nous sont proposées par différents acteurs, etc. Et puis le deuxième point, c'est qu'ils ont toujours ce qu'on observe chez ces modèles, c'est qu'ils ont toujours aussi veillé à ce que, quand bien même, évidemment, la première étape, c'est la condition sine qua non, c'est respecter strictement les règles. Pas de riba, pas d'investissement dans des secteurs illicites, pas de rara, et ainsi de suite. Mais ensuite, le deuxième élément, c'était une fois qu'on a fait ça, bon, on est dans le halal. Mais eux, ils ont été plus loin que ça. Ils ont fait en sorte que ce chemin de l'enrichissement, en fait, il ne soit, je dirais, même dans leurs préoccupations du quotidien, qu'ils fassent en sorte que ce soit jamais une préoccupation du quotidien. Au point de prendre trop de place sur la recherche de la quiétude, etc. Et donc, en fait, ça s'est matérialisé par quoi? Bah, il faisait beaucoup de dons. Il était très généreux. Il n'hésitait pas à voilà, on a un exemple de Omar ibn Khattab, qui avait un jour, donc, en travaillant une terre, avait raté, en fait, la prière en groupe. Et là, je parle de la prière en groupe, hein, donc c'est pas à la mosquée, donc il s'agit pas de rater la prière, hein, qu'on s'entende bien. Et en fait, suite à cela, en fait, il est arrivé à la mosquée, il avait raté la prière en groupe, et en fait, il a fait don de la terre qu'il était en train de travailler, en disant que, en gros, dans le sens, hein, du récit, elle m'a occupé. Elle m'a occupé, c'est-à-dire elle m'a
Scrum.
charalatni fi dunya. Elle m'a préoccupé dans dunya. Elle m'a fait oublier l'essentiel. Donc, paf, voilà, j'en fais don. Et puis voilà. Donc,
Ouais.
alors, c'est peut-être des cas, machin, ça nous paraît, nous, fort, très fort. Mais ce sont des exemples qui nous, les leçons qu'on doit en tirer. En fait, c'est ça, c'est ne faire en sorte que l'argent reste toujours dans la main et qu'il rentre jamais dans le cœur. Ça,
Ouais.
c'est vraiment les points essentiels. Pour moi, une fois qu'on a passé ce cap-là, après, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plein de solutions. Donc, il faut y aller à fond, il ne faut pas s'en priver, au contraire. Et en plus, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité à titre personnel, parce qu'on sera interrogé sur ça. Comment on a gagné notre argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, si on avait l'opportunité de développer son patrimoine, d'en faire profiter sa propre personne, mais aussi sa famille, son entourage, d'en faire profiter la communauté au sens plus large, communauté musulmane, communauté nationale, d'en faire profiter, voilà, des causes nobles, etc. Bah, en fait, pourquoi on s'en est privé? Parce qu'on avait des préjugés, on s'était pas intéressé réellement à la question et on a tiré un trait sur le sujet. Non, c'est pas une attitude responsable. Voilà, donc ce que j'avais à
Très
dire
bien.
sur cette question.
Très bien. Là, tu as plutôt réagi aussi par rapport à le côté, voilà, plutôt assets, ceux qui sont, voilà, qui sont réticents à investir. Et pour les personnes qui, de l'autre côté, investissent, mais en regardant pas où ils investissent, en regardant juste le profit, par exemple, en essayant juste de faire grossir leur patrimoine, pourquoi c'est important pour cette catégorie de personnes, l'autre extrême, de faire attention à où ils investissent?
Alors là, je vais te répondre de deux manières, si tu me permets. La première, c'est que moi, d'un point de vue de, si tu veux, je suis pas imam, je suis pas, voilà, donc c'est pas mon rôle de faire un rappel entre guillemets sur les méfaits du riba, que ce soit d'un point de vue personnel pour la personne ou que ce soit d'un point de vue sociétal. Ça, c'est moins mon rôle, on va dire. Par contre, là où moi, effectivement, je peux apporter un commentaire ou une partie de réponse à ta question, c'est que, en fait, de ce que j'ai quand même pu observer, pour beaucoup d'entre eux, s'ils ont la possibilité de choisir, voilà, ils vont quand même choisir l'option conforme à l'éthique musulmane. Ils vont quand même choisir l'option éthique. Il n'y avait pas de possibilité jusque-là, ou en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a. Certains sont informés, d'autres pas encore. Mais en règle générale, on va quand même avoir voilà, un réflexe de s'intéresser à l'alternative licite, halal, éthique, plutôt que de rester dans ce chemin. La raison qui faisait que c'était de dire, bah, j'ai pas le choix. Voilà. Aujourd'hui, il y a le choix. Alors certes, après on rentre dans d'autres sujets. On voit bien que c'est pas le même cheminement que la personne qui était, comme on a dit, celui qu'on a qualifié d'asset. Hein, c'est encore une fois un peu trivial, mais voilà, c'est pas le même cheminement. Le cheminement de celui qui était déjà dans les investissements, mais qui faisait pas attention à ce dans quoi il investissait, la manière dont il finançait ses projets, etc. Bon, lui, il y a le sujet de, voilà, maintenant tu as le choix d'aller vers une alternative éthique. Et après, souvent, là où ça va grincer un petit peu des dents, c'est sur la question du coût. C'est-à-dire, voilà, bon, bah,
Coût et
soit ça me
rendement.
coûte un peu plus cher, voilà, coût et rendement. Donc, soit ça va me rapporter un peu moins, bon, bah, du coup, il y a un arbitrage à faire. Et du coup, c'est finalement un peu l'élasticité, entre guillemets. Même si j'aime pas parler en ces termes, mais voilà, c'est l'élasticité. Si c'est 5% plus cher, ok, je veux bien opter pour l'alternative ou 10% plus cher, mais si c'est 15%, bah, au-delà de 10, ça y est, l'alternative, pour moi, je l'exclus et je reste sur le conventionnel. Voilà, en général, c'est là que se situe la discussion. Et après, bon, au cas par cas, voilà, évidemment, on sensibilise, etc. Et on incite aussi tous les acteurs à le faire, à accorder du temps à ces questions de pédagogie, de sensibilisation. On essaye de le faire depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. On continue encore aujourd'hui, régulièrement sollicité pour des conférences, des interventions, etc. Ben, on le fait pour continuer à sensibiliser et on a bon espoir que ça évolue dans le bon sens. D'autant plus que faut quand même garder à l'esprit que on est aujourd'hui bien aidé quand même parce que ce qu'on observe aujourd'hui des dérives du système capitaliste, Je veux dire, on n'est même plus. Avant, on avait l'impression d'être en train de faire de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être musulman aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas et pour être sensibilisé à ça. Quand on voit le développement, par exemple en France, de l'investissement socialement responsable et la croissance folle de ce type d'investissement, pareil pour la finance solidaire, on voit quand même que voilà, les gens s'interrogent sur comment fonctionne le système capitaliste. Il y a quand même des choses qui ont l'air de pas rouler, de fonctionner correctement. On voit les méfaits d'un point de vue de l'urgence climatique, d'un point de vue de l'environnement, etc. Bon, donc on est très confiant du fait que ça va beaucoup aider à la prise de conscience et que ça va aller que dans le bon sens, Inch'Allah.
Je voudrais ajouter avant qu'on continue une troisième catégorie de personnes que je trouve intéressant. C'est les personnes qui voilà ont compris que c'est important d'investir dans le halal, hein, dans quelque chose de licite, islamiquement parlant. Mais du coup, s'ils vont rechercher, c'est juste ils vont juste regarder le rendement, par exemple. Et on va pas forcément regarder où est-ce qu'on investit, quel est l'impact sociétal, etc., etc. Donc c'est une catégorie qui, on va dire, rentre dans les cases du halal. Mais voilà, qui rentre juste dans les cases, mais voilà, qui regarde pas forcément l'impact derrière. Pour avoir tendance à penser que c'est quand même, ça reste quand même important de regarder où est-ce qu'on investit, pourquoi on investit, quel impact on a derrière. Est-ce que tu as quelque chose à commenter aussi par rapport à ça?
Oui. Alors en fait, ça c'est un sujet qui est sur lequel souvent en tout cas je considère que qu'on se trompe sur ce sujet-là. D'une part, le halal c'est le départ, c'est le point de départ. Quand on a passé le halal, après, on peut cheminer vers l'ihsan, vers la recherche de l'excellence, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il faut d'abord commencer par le halal. Halal an tayyiba, c'est d'abord halal, ensuite tayyib. Donc d'abord le halal, et ensuite on va rechercher l'excellence. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et donc aujourd'hui, on a souvent des réactions de « Ah oui, mais attends, tu me proposes d'investir dans un fonds d'investissement, par exemple en action, avec voilà, des critères de sélection, il n'y a pas les critères financiers, des ratios, etc., qui sont validés par le par les par par l'AOIFI, on va dire le plus grand comité de savants spécialisé dans la finance islamique, etc. Mais par contre, attends, je vois que dans ce que tu me proposes là, il y a l'action de telle société ou telle société qui… moi, à ma connaissance, voilà, n'a pas forcément une très bonne empreinte d'un point de vue environnemental, par exemple. En fait, là, moi, je dis attention. Évidemment qu'il faut avoir ce souci-là, évidemment, mais ça ne doit pas devenir l'excuse pour ne pas y aller. Parce que d'abord, il faut aller dans le halal, et ensuite, là-bas, on va rechercher les personnes. Aujourd'hui, si on a des fonds d'investissement, par exemple islamiques, on n'a pas de fonds d'investissement islamique socialement responsable, c'est-à-dire en appliquant double critère. Pourquoi? Parce que si on applique double critère, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune société dans laquelle on peut investir. Et comment faire en sorte que cet univers d'investissement y grandisse? Ben d'abord, il faut qu'il y ait plein de fonds islamiques, que les fonds islamiques ils soient hyper successful. Et à ce moment-là, on va dire, bon, maintenant, on peut créer des sous-gammes avec notamment une gamme socialement responsable, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il ne faut surtout pas que ce soit un frein de se dire, bah voilà, si ce n'est pas super éthique, super socialement responsable, etc., green et compagnie, alors je n'y vais pas. Un peu comme tu vois, dans l'alimentaire. Souvent, on en a parlé aussi. Oui, c'est halal, mais ce n'est pas de la bonne qualité, etc., etc. OK, mais fais le halal et après, on fera le halal bio. Mais pourquoi le halal bio se développe? Bah parce que déjà, il y a un gros marché du halal. Donc, il faut commencer par le commencement. Et ensuite, deuxième élément, c'est que dans la finance spécifiquement, on se trompe énormément sur qu'est-ce qui cause le plus de tort à l'humanité entre, d'une part, par exemple, investir dans des secteurs qui sont voilà, qui polluent ou que sais-je, et d'autre part, la pratique du riba. On se trompe radicalement. On croit que riba, ça a très peu d'effet, et que par contre, investir dans des sociétés qui polluent etc., bah là, par contre, c'est la chose la plus grave qui puisse être. Et en fait, c'est comme si dans notre esprit, c'est 99 et 1%. Alors qu'en fait, c'est quasiment le contraire. Quasiment le contraire. D'accord? Quasiment le contraire. Parce que les causes, en fait, profondes de pourquoi est-ce que la société X, qui est, par exemple, dans les, je sais pas, moi, dans l'agroalimentaire, va polluer, va pomper les nappes phréatiques, utiliser les matériaux les pires qui soient les matières premières, pardon, les pires qui soient dans sa production, etc. etc. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, Derrière, elle doit atteindre un certain niveau de rendement. Et pourquoi elle doit atteindre un certain niveau de rendement? Aujourd'hui, un actionnaire, il demande en dessous de 10% et il discute pas avec toi, quelqu'un qui investit en equity. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il a un point de comparaison. Son point de comparaison, c'est quoi? C'est que le système capitaliste admet qu'on puisse rémunérer de l'argent juste pour de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. Et donc, en fait, aujourd'hui, et surtout actuellement, on le voit parce que les taux ont augmenté. Aujourd'hui, je dépose mon argent. Et donc, entre guillemets, je prête mon argent à la banque avec des intérêts, je gagne 3%, 3,5%, 4% selon où je suis, quel pays, etc. D'accord? Donc, forcément, forcément, quand la société qui vient me solliciter en tant qu'actionnaire pour investir avec elle me propose 5 ou 6% de rendement, est-ce que je vais investir avec elle? Jamais de la vie. Parce que moi, je fais un calcul très simple. De l'autre côté, j'ai zéro risque et on me donne 4%. Toi, tu me fais prendre des risques et tu me donnes 5 ou 6%, mais je vais jamais investir avec toi. Ce que tu me proposes comme rendement supplémentaire, en fait, ne compense pas le risque que je prends. Donc, il faut que tu me ramènes du 10%, du 12%, du 15%, sinon j'investis pas avec toi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Et ben, c'est à ce moment-là qu'elle commence à faire n'importe quoi. C'est là qu'elle pollue. C'est là qu'elle fait travailler des enfants. C'est là qu'elle provoque des conflits géopolitiques bidons partout dans le monde et bizarrement que dans des États, dans des pays où il y a des ressources naturelles, etc., etc. C'est là qu'on tombe dans tous ces méfaits et tous ces méfaits qui causent du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une déclaration de guerre dans le Coran vis-à-vis de celui qui pratique le riba. C'est pour ça. Et nous, en fait, on regarde pas ce côté de l'histoire. Imaginons que maintenant, on est dans un système qui n'est pas un système capitaliste, c'est le système financier, entre guillemets, islamique. Donc, il n'y a pas de la pratique de l'intérêt est prohibée. OK. Donc, si je ne prends pas de risque, qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Si moi, je dis, avec mon argent, je ne veux pas prendre de risque. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que je n'investis pas. On est d'accord. Je n'investis pas. Je laisse mon argent dormir. Et si je laisse mon argent dormir sous le matelas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, il va déjà se fructifier zéro. Et en plus de ça, je vais payer zakat al-mal dessus. Donc, je vais faire moins 2,5% tous les ans. Et toi qui as fait des maths sûrement plus que moi, eh ben, tu sais que voilà, avec il y aura une petite asymptote au niveau du Nisab, mais grosso modo, entre 35 et 40 ans, un capital, quel qu'il soit, de 100 000, 1 milliard, 10 milliards de dollars, eh ben, en fait, au bout de 35 à 40 ans, avec Zakat qui passe tous les ans à 2,5%, qui vient fonctionner tous les ans 2,5%, mon capital va se résorber totalement en
Plus
35 à
l'inflation.
40 ans, ou du moins, je laisse même de côté l'inflation. Ça, c'est bonus. Pour ajouter l'inflation, de 35 à 40 ans, on va descendre à 25 ans, si tu veux. Donc, en 35-40 ans, mon capital aura disparu, anéanti. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de laisser l'argent dormir. D'accord? Donc, en fait, moi, en tant qu'investisseur musulman, quand un entrepreneur vient me proposer un projet avec 5% de rendement, est-ce que moi, je suis content? Ah oui, je suis content parce que je compare 5% avec moins 2,5% dans le cas où je prends zéro risque et je laisse mon argent dormir. Ça me fait une compensation du risque de l'ordre de 7,5%. Bah, évidemment que je suis content. Et donc, je vais investir. Et est-ce qu'en investissant dans les entreprises qui font du 5%, est-ce qu'on cause du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. On produit de la richesse d'une manière qui est saine et équilibrée. Donc, en fait, la pratique de l'interdiction de l'intérêt, c'est pas pour rien que l'emphase est mise sur ce sujet-là de manière très, très, très poignante, autant dans le Coran que dans la Sunna, que dans les hadiths. C'est très, très violent, hein, les injonctions vis-à-vis de la pratique du riba. Mais souvent, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi? On dirait, enfin, il n'y a pas mort d'homme. Je veux dire, j'ai pris un petit crédit ou j'ai placé de l'argent avec quelques pourcents d'intérêt. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai fait du mal à personne. Pourquoi est-ce qu'on. Dans ce sens, il nous parle de déclaration de guerre. C'est quand même, ça a l'air d'être un truc grave. Et parce qu'on ne voit pas la portée. Là, quand on comprend la portée, ça y est, on a compris qu'en fait, le sujet de oui, mais la société, elle me verse 5%, mais elle pollue un petit peu. Non, c'est pas pour ça qu'elle pollue. Pourquoi elle pollue? Elle pollue parce qu'on leur demande de cracher du 15%, alors qu'elles ne peuvent pas faire ça. Et on ne peut pas vendre des produits ad vitam aeternam deux fois plus cher, trois fois plus cher. Si je ne peux pas augmenter mon chiffre d'affaires, je dois faire quoi? Eh bien, je dois baisser mes charges. Si je baisse mes charges, ben, je vais faire quoi? Eh bien, voilà. CQFD, on a résolu le problème. Enfin, résolu le problème. On a pointé du doigt, en tout cas.
Avant d'entrer dans la question vraiment pratique, on va y venir, hein, mais cette discussion-là me fait poser des questions. Elle me rappelle des choses en même temps que tu évoques. Tu sais, souvent l'idée que le système capitalistique, dans lequel on vit,
c'est pas bien, il faut un système islamique, etc., etc. Le problème que je vois, moi, par rapport à ça, c'est que les gens, parfois, ils idéalisent un petit peu en se disant, il nous faut un système islamique, sinon ça marcherait pas et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, on sait pas c'est quoi, tu vois. Et on va voir, par exemple, en France, des gens qui vont plus, parfois, tu sais, les gens plutôt du côté ascète, on va dire, je pense, ils vont plutôt être adeptes à des systèmes sociaux communistes, tu vois, partage des richesses, etc. Ils aiment bien ce système-là, tu vois. Et les autres investisseurs, ils sont plutôt capitalistes. Mais en fait, il y a un peu de bon dans certains. Et j'ai envie de dire, parmi ces trois-là, socialisme, capitalisme et communisme, tu vois, même il y en a beaucoup d'autres. Hein. Le système capitaliste, si tu enlèves le riba, il reste quand même assez proche par rapport au socialisme et au communisme, de ce que je comprends. Hein. Le fait de pouvoir investir, etc., c'est assez proche des valeurs, c'est le plus proche des valeurs islamiques, si on enlève certains côtés.
Tout à fait.
Ouais. Et là, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, si j'ai bien raison. Et aussi, comment est-ce qu'on fait, nous, pour. Vu qu'on vit dans un monde, on est entouré d'intérêts. En fait, on peut pointer du doigt les problèmes, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas non plus comment dire, à théoriser le monde, la société idéale, on va dire, ou l'économie idéale qu'il nous faudrait. On n'arrive pas à vraiment la comprendre, tu vois, la toucher le voilà. Peut-être qu'il n'y a pas assez de réflexion aussi par rapport à ça.
Ouais, alors c'est une question très très profonde. Hein. Je vais répondre très brièvement parce que déjà je pense pas être qualifié pour ça. Et en plus le thème c'était plus finance, on va dire, que économie ou voire même économie politique. Quoi. Donc en fait, effectivement, moi en tout cas de ma petite fenêtre, ce que je vois c'est que je partage ce que tu évoquais juste avant. Je pense que le système économique islamique est plus proche du système capitaliste, mais en fait le truc c'est que pour imager ça, quand tu dis on enlève la pratique du riba, etc., en fait c'est ce que je disais juste avant, on a l'impression que c'est un petit sujet de retirer la pratique du riba. Et en fait comme on ne mesure pas réellement l'impact de ça, on se dit que non, ça peut pas être ça, ça peut pas être que ça. Et en fait c'est déjà un gros morceau. Si déjà on arrive à faire ça, bah voyons ce que ça donne après. Et tout à l'heure j'ai évoqué le fait que bah, les modèles qu'on a, on voit bien que notre système prévoit toute la partie sociale, donc la prise en charge voilà des nécessiteux, etc., que ce soit par leur prise en charge effective ou par le fait de leur offrir des opportunités, grâce notamment au fait que l'investissement est recommandé, conseillé et promu dans l'économie islamique. Et voilà. Donc moi, je pense que globalement, effectivement, on pencherait plus. En tout cas, il y a plus de connexion avec le système capitaliste. Mais les points de divergence sont des points qui sont beaucoup plus structurants qu'on le croit. Voilà, c'est globalement ce sur quoi je m'arrêterai. Et si par contre tu veux faire un truc, tu veux faire un podcast là-dessus, je pense avoir quelques personnes très intéressantes à te recommander, Inch'Allah.
Mais écoute, on en reparlera en off,
Yes,
Inch'Allah.
avec plaisir.
Alors, rentrons dans les conseils pratico-pratiques. Alors,
Ouais.
je suis un, voilà, je vis à l'étranger, je suis un. J'ai un peu d'argent de côté, ou je n'ai pas encore d'argent de côté, mais comme je sais que je vais commencer à en mettre de côté, à épargner, ou même je prépare voilà, mon départ, etc. Mais j'ai rien par quoi je commence.
Ouais. Alors, je vais commencer par parler globalement de l'expatrié. Après, c'est des cas un peu spécifiques. Celui qui prépare une expatriation ou bien celui qui envisage de rentrer, c'est des cas un peu spécifiques. Mais globalement, on va parler de l'expatrié. Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, globalement, conseil qu'on donne à tout le monde, expatrié ou pas, quand on veut se constituer un patrimoine, le patrimoine, il court sur deux jambes. On court sur deux jambes. Donc, d'une part, c'est le patrimoine immobilier, d'autre part, le patrimoine financier. Donc, immobilier, je pense, c'est clair pour tout le monde. Financier, ça va être tout ce qui concerne les placements, les investissements, etc. Et là, il y a tout un panel de possibilités dans le volet du patrimoine financier. Sur la partie immobilier, l'idéal, si on le peut, c'est de profiter des possibilités qui nous sont offertes en matière de financement. D'accord? Donc, si je peux faire des acquisitions, une ou plusieurs acquisitions et me les faire financer, c'est l'idéal d'un point de vue financier, parce que ça va me permettre d'allouer ce que je ne le capital que je ne mets pas dans l'acquisition, je vais pouvoir le mettre justement sur le patrimoine financier, et ça va me permettre de diversifier, ça va me permettre d'aller plus vite, etc. Donc, comment profiter des possibilités de financement? Bah, si je suis, là, je parle des expats
Quand
qui
tu dis se le
partent.
faire financer, parce que c'est peut-être pas clair, c'est ne pas l'acheter cash, c'est-à-dire c'est pas attendre
Pas
d'avoir
lâcher
l'argent,
cash,
voilà.
exactement. Pas lâcher cash. Donc, solliciter un financement évidemment conforme à l'éthique musulmane. Et là, je vois trois options. Trois options. La première, c'est comme moi, je parle là des expats français, hein, d'accord? Français de nationalité française ou binationaux, mais qui ont la nationalité française. Donc, pour une acquisition en France, il y a certaines possibilités. C'est pas aussi facile qu'un résident français, mais il y a quand même quelques possibilités. Donc, ça, c'est une voie possible. Deuxième voie possible, c'est le fait de, comme vous êtes résident forcément quelque part, je sais pas, vous êtes résident aux Émirats, et bien là-bas, vous avez des solutions de financement conformes à l'éthique musulmane. Et donc à ce moment-là, vous pouvez solliciter une banque islamique localement pour faire une acquisition, plusieurs acquisitions, que ce soit pour votre résidence si vous vous projetez sur une durée assez longue là-bas, ou bien pour un investissement locatif, ou bien un mix des deux, c'est-à-dire que c'est un bien dans lequel vous allez habiter, mais vous l'aurez choisi d'une manière en ayant en ligne de mire aussi la possibilité de le mettre en location dans le cas où vous quittez le territoire. Ça, c'est la deuxième option. La deuxième voie, pardon, à explorer. Troisième voie, c'est tout ce qui va concerner les financements non bancaires. Et donc là, par exemple, dans certains pays, vous allez avoir en fait directement des promoteurs qui vont vous proposer des plans en fait de paiement en plusieurs fois, sur plusieurs années. Ça dépend des pays, ça dépend des promoteurs, ça dépend des programmes. Mais en général, vous allez trouver quand même quelques options comme ça. C'est intéressant parce que du coup, alors il y a des avantages, des inconvénients évidemment, mais voilà, c'est les trois voies pour moi à explorer. En tout cas, pour moi, c'est une erreur. Il y a une erreur qu'il faut éviter à tout prix, c'est acheter cash un bien immobilier. Franchement,
Et c'est ce
ça, c'est
qui est
vraiment
en général
recommandable.
ce que les gens essayent de faire. Enfin, qui veulent éviter le
C'est
riba, ça va être l'option numéro un.
Ce qu'on observe. On observe quand même souvent ça. Alors, alhamdoulilah, la plupart des gens qu'on rencontre et avec qui après on a le plaisir de travailler, bon, voilà, ils comprennent assez vite en fait la logique et du coup, voilà. Mais parfois quand on arrive, c'est un peu trop tard ou ils ont déjà fait ou autre. Bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point, le patrimoine immobilier. Donc on peut
Juste sur ce point-là, pourquoi en fait expliquer pourquoi est-ce que acheter cash, c'est pas avantageux en fait?
Ouais, parce qu'en fait, lorsque on, si tu veux, la période d'activité, on est actif sur un certain nombre d'années. Je sais pas si la plupart de nos clients ont entre 35 et 45 ans, je dirais, ou 30-45 ans, on va dire. Et en fait, si j'ai 43 ans et que j'ai mis de côté 400, 300 000 euros, 400 000 euros, en fait, si je vais acheter un bien immobilier, voilà, j'ai un patrimoine de 400 000 euros. Il peut se valoriser, allez, 1 ou 2% l'année pendant les 20 années qui me séparent de ma retraite. Et après, je suis à zéro, quoi. J'ai un bien immobilier et je suis à zéro. Soit c'est ma résidence, soit c'est une résidence secondaire, soit c'est un investissement locatif. Si c'est un investissement locatif, il va générer un peu de revenus, mais ça s'arrête là. Si en fait, j'ai recours à un financement, en fait, je vais mettre, en général, ils demandent, allez, on va dire 20%, par exemple, d'apport personnel. Donc, je vais mettre 80 000 euros. Et les 320 000 euros restants, en fait, je vais me faire financer. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Les 320 000 euros que moi j'aurais pas mis en cash et que la banque va me financer, moi cet argent-là, je vais pouvoir l'investir. Donc je vais pouvoir le placer. Je vais le mettre dans des placements qui vont leur apporter du revenu, qui vont me permettre aussi de diversifier, puisque j'aurai d'un côté acheté un bien immobilier et je serai exposé sur l'immobilier. De l'autre côté, je vais pouvoir placer en diversifiant mes placements. Donc je vais diversifier. Je vais courir sur les deux jambes. Alors là, on pourrait dire oui, mais je vais quand même payer une mensualité. Donc du coup, si je le mets en location, on va dire je mets en location, allez, à 1 500 euros ou 2 000 euros, mais que je paye une mensualité de 2 000 euros, je gagne rien. Oui, mais le bien, il se paye. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet, sur le bien immobilier, donc il va se financer, entre guillemets, tout seul, ou bien ça va me demander un petit effort d'épargne vraiment marginal pour compléter quelques centaines d'euros de gap entre la mensualité et le revenu locatif. Et ça me permet d'avoir un patrimoine à terme. Et les 320 000 euros en fait que j'ai placés par ailleurs, ceux-là aussi ils vont fructifier. Donc en fait, si je me projette à horizon 20 ans, j'aurai un patrimoine bien plus conséquent. Par contre, certes, pendant les 15-20 ans, là, j'aurais eu moins de revenus pendant cette période-là. Mais est-ce que j'en ai besoin pendant cette période-là? Non, parce que c'est ma période d'activité. Par définition, si je suis en capacité de poser 400 000 euros sur la table, c'est que j'ai quand même une propension moyenne à épargner qui est assez conséquente. Et donc, en fait, j'ai pas besoin d'avoir des revenus complémentaires à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Alors après, attention, je suis pas non plus adepte de il faut s'endetter à tout va, tout ce que la banque vous donne, prenez-le. C'est pas du tout notre discours. Hein. Encore une fois, on est toujours dans l'équilibre. Et si je dis d'un côté, on se finance 320 000, de l'autre côté, on a placé 320 000. Donc souvent, on se trompe aussi sur cette question d'endettement. Beaucoup de clients nous disent, mais moi, je veux pas être trop endetté, ça me dérange la dette, etc. Je dis, mais si le patrimoine, c'est quelque chose de global, c'est un patrimoine consolidé, entre guillemets, si on voulait parler en termes comptables. C'est global, il ne faut pas regarder, je suis endetté sur mon actif numéro 1. Mais qu'en est-il de mon actif numéro 2, actif numéro 3? Si j'ai 320 000 euros de placement et que de l'autre côté j'ai une dette de 320 000 euros, est-ce que je suis endetté? Je ne suis pas endetté. Oui, je suis endetté, mais d'un point de vue de mon solde, mon bilan, moi, comptable, je ne suis pas endetté. D'accord? Voilà. Donc, souvent, on a cette petite. Une mauvaise compréhension de la question de l'endettement. Mais attention, comme j'ai dit, il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême de endettez-vous à tout va, sans faire de calcul, etc. Il faut quand même. On prône toujours une gestion qu'on appelle en bon père de famille. Donc, voilà, il faut être prudent sur ces questions-là et le faire de manière intelligente.
Surtout dans le contexte expatrié, qui est un contexte beaucoup plus précaire. Un sujet qu'on n'a pas parlé, c'est voilà, c'est d'avoir une certaine, quand même, une épargne de précaution, peut-être,
Tout à fait.
pour pouvoir justement, si on a un problème, si on perd son travail, pouvoir tenir pendant un petit moment, enfin un moment convenable, et pour pouvoir payer ses échéances au niveau de la banque, par exemple.
Exactement. L'épargne de précaution, c'est un élément très important, c'est la base. En fait, chaque client qui vient nous voir, si je reprends l'exemple qu'on a vu là, la personne vient nous voir, voilà, j'ai 400 000 euros. Bah en fait, on va lui dire tout de suite, déjà, il faut l'épargne de précaution. Avant de parler de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, il faut déjà enfin, vraiment la première pierre, c'est l'épargne de précaution. Et donc là, on va se dire, la bonne pratique, c'est entre 2 et 3 fois le salaire, donc 2, 3 mois de salaire. Et par contre, pour un expat, en
C'est
général, on va
plus,
conseiller plus. On va conseiller 5, 6 mois de
Et pas le
salaire.
chômage en général.
Voilà,
Ok, maintenant
exactement. On va
maintenant à
conseiller.
Dubaï, ils le mettent, mais ça dépend des pays. En
Ouais,
général, il n'y a pas de chômage.
ça a commencé un peu à se développer. Mais globalement, on va conseiller quand même d'avoir voilà, au moins 6 mois de salaire en épargne de précaution qui permet effectivement de pallier à des urgences, etc. Ensuite, on a parlé de l'immobilier. Donc là, maintenant sur le patrimoine, sur le volet financier. Alors, quelques réflexes, quelques bons, voilà, des bonnes pratiques, on va dire, et des réflexes à avoir. Déjà, premièrement, donc la diversification. La diversification en termes de classe d'actifs, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire plusieurs choses. C'est à travers les classes d'actifs, c'est-à-dire dans quel secteur je vais investir, quel type d'investissement, est-ce qu'on est sur des actions, plutôt des soukouks, je parle que sur des investissements islamiques, évidemment, c'est le truc de base, moi c'est mon activité, le reste, je l'exclus du scope. On va être plutôt sur de l'immobilier. Quand je dis immobilier, c'est via des fonds d'investissement, pas en direct, hein, via des fonds d'investissement, parce que ça existe aussi, nous on le fait très régulièrement. Également, je peux investir en private equity, entre guillemets, prendre des participations dans des entreprises. On a tous autour de nous, et surtout quand on est expat, on voit beaucoup, beaucoup d'initiatives, voilà, de connaissances dans notre réseau, etc., de personnes qui lancent des boîtes, qui cherchent à lever des fonds, etc. Donc ça aussi, ce sont des possibilités d'investissement. Et donc il faut diversifier en termes de classe d'actifs, en termes aussi de zone géographique, quand on en a la possibilité. C'est une bonne chose à faire, c'est un bon réflexe à avoir. Et déjà, pour commencer, on est binational. Bah déjà de commencer par là, c'est-à-dire je sais pas, moi je suis franco-marocain, je suis installé aux Émirats, bon bah j'ai déjà quelques idées de diversification géographique, quoi. Voilà, j'ai possibilité peut-être d'investir au Maroc, et j'en ai parlé par exemple tout à l'heure pour le pays de nationalité. Si j'ai aussi une nationalité marocaine, je peux solliciter un financement immobilier au Maroc aussi. Donc, tu vois, pour le volet immobilier, c'est aussi une voie. Si je suis dans le cas que j'ai cité, je peux solliciter du financement en banque aux Émirats, en France et au Maroc, bah, il faut en profiter. Donc, en termes de diversification, ça donne aussi déjà une tendance. Après, si mon patrimoine se développe encore plus, je peux chercher à encore plus diversifier géographiquement et aller sur d'autres territoires. Ensuite, au niveau des devises, Des diversifications aussi en termes de devises. Attention à ça. Souvent, on se prend, en fait, parce qu'on est concentré. J'ai beaucoup de clients, par exemple, qui, voilà, ils étaient concentrés sur, je veux mettre un max de côté pour pouvoir ensuite envisager des choses. Ben, ils se retrouvent avec 400, 500 000 euros ou l'équivalent, mais dans une seule devise. C'est-à-dire, les 400 000, il les a, par exemple, ils sont aux Émirats. Bah, tous les mois, c'est hop, j'envoie de mon compte perso aux Émirats vers mon compte Revolut, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais voilà ce genre de plateforme, on va dire, qui permettent d'optimiser, on va dire, sur le change. Ensuite, j'envoie ça sur un compte d'une grande banque qui aime bien les clients expatriés, internationaux, voilà, parce que ça me facilite la vie. Et puis, du coup, je coffre, je coffre, je coffre. Et j'ai mon flux comme ça qui se fait tous les mois ou tous les 3 mois ou de manière régulière. Et du coup, bah, au moment où je me dis, allez, maintenant, il faut que je regarde dans quoi investir, etc., bah, tout mon argent est en euros. Et si c'est un moment où bah, les taux sont pas bons, si finalement je veux investir une partie aux Émirats ou au Maroc ou ailleurs, ou que sais-je, bah, c'est pas l'idéal. Donc, l'idéal, c'est de diversifier. Donc, de ne pas avoir encore une fois, tous ces actifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a possibilité d'investir en dollars, il y a possibilité d'investir en devises locales et en euros. Donc, voilà, globalement, il y a de quoi faire. Il faut juste le prendre en
L'or,
tête,
l'or
avoir.
aussi, qui peut changer dans
Oui,
n'importe quel.
tout à fait, tout à fait. Voilà, ça c'est pour la partie diversification. Ensuite, il y a une question qui revient souvent, c'est quelle la proportion, combien en pratique, combien je devrais épargner pour être dans un bon trend, entre guillemets. Voilà. Il faut savoir qu'en France, la propension moyenne à épargner des Français, ça c'est des chiffres de l'INSEE les derniers, donc 2021, je pense que 2022 va sortir bientôt, c'est un peu moins de 20%, 18 et des brouettes, d'accord? Un peu moins de 20%, donc 20% du revenu brut, ce que les gens épargnent en général. Si on l'applique à un expatrié, il faut prendre deux critères. Premier critère, c'est en fait, vu que je suis expatrié, souvent à profession équivalente, mes revenus sont plus élevés. Et puis deuxièmement, si je suis expatrié, avant même de parler de profession équivalente, en général, même si ça a quand même beaucoup bougé ces dernières années, mais je vais être dans la part des gens qui peuvent épargner un peu plus. Parce que là, j'ai dit la moyenne française, c'est 18,5 à peu près. Mais c'est une moyenne. Donc, en fait, celui qui gagne 5 000 euros par mois, il épargne en général un peu plus que celui qui gagne 1 500 euros par mois. C'est logique. D'accord? Donc, voilà, l'expat, il coche ces deux cases-là. Déjà, il est dans la catégorie de ceux qui gagnent un peu plus. Et en plus, vu qu'il est expat, à comparer celui qui gagne 5 000 en France, bah, en tant qu'expat, il va être à 7 000 ou 8 000.
Ouais,
Donc,
surtout que
la
parfois
proportion marginale.
on peut être moins taxé ou bien plus ou moins taxé
Exactement. Exactement.
et plus c'est certains pays où il va y avoir
Exactement.
une retraite qu'on peut compter dans le patrimoine futur,
C'est
même
ça.
si elle n'est pas très
C'est
élevée.
ça.
Ça compte quand même.
Donc, en France, la contribution sur le volet social, fiscal, etc., qui permet de couvrir tout ce qui concerne, voilà, ma retraite, ma santé, etc., c'est à peu près 25% de mes revenus de brut qui sont ponctionnés sur mes revenus bruts. Et donc, en fait, ça, quand on l'a pas, il faut le reconstituer. Donc, si on met les deux ensemble, l'épargne de 18,5% et les contributions de 25%, ben, en fait, on met les deux ensemble, on est à 43,5%. Donc ça donne quand même une tendance. Et comme on est plutôt sur le haut du panier parce qu'on gagne, on est dans des souvent des voilà, les expats sont quand même bien lotis. Bah en fait du coup en théorie on devrait être un peu au-dessus. C'est-à-dire que le 18,5 qui concerne l'épargne pure, il devrait être un peu plus haut, peut-être à 20, 25, 30%, jusqu'à même peut-être plus. Et après les 25, c'est une bonne un bon proxy entre guillemets, c'est un bon équivalent à avoir en tête pour se dire que ça finalement c'est la part de mes revenus que moi, vu que je dois m'organiser tout seul sur une partie de ces sujets-là, retraite, santé, l'avenir des études des enfants et tout, eh ben, je mets 25%. Donc, 20, allez, 18,5 plus 25, on est à 43,5. Ben, il faut se dire que, allez, entre 40 et 60%, on est bien. D'accord? Donc, à peu près 50%. Et nous, c'est ce qu'on observe chez la plupart de nos clients expats. C'est à peu près ça, leur capacité d'épargne, voire plus. Et donc, en fait, si je vois que je suis à 10% ou 15%, je laisse de côté les cas extrêmes, hein. Voilà, je viens de démarrer là-bas, voilà, j'ai des charges exceptionnelles ou etc. Enfin, je laisse de côté ces cas un peu à la marge. Mais voilà, pour le profil type, C'est ça qu'il faut avoir en tête à peu près.
Donc encore une fois, ça va dépendre, hein. Si
Voilà.
la santé est prise en charge, par exemple, on n'a pas besoin d'être à 50% puisqu'on n'aura pas, on
Exactement.
n'aura pas de frais de. Voilà, par exemple, moi je sais qu'à Singapour, ça coûte extrêmement cher. Ma femme avait accouché, donc même les frais de santé, les frais de soins, c'est extrêmement cher. Donc je sais qu'il fallait mettre de côté pas mal pour gérer ça. Mais voilà, si on n'a pas ça, déjà, ça diminue déjà considérablement. Mais voilà, si on parle vraiment purement de ce qu'on investit, on va dire par objectif. Disons qu'on a l'éducation, parce que c'est le cas de tous les expats en général, l'éducation des enfants, plus voilà, construire son patrimoine. Juste si on parle juste de ça, je pense qu'on doit être à combien environ? Trentaine de pourcents, 25, 20?
Ouais, c'est ça, c'est ça. On a vu beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui, à un moment donné, quand les enfants, donc déjà, quand les enfants arrivent, même s'ils sont pas encore dans les études supérieures, ben, déjà, il y a des frais importants qui commencent à apparaître et donc qui impactent quand même assez sensiblement, bah, pour les écoles privées, etc., qui impactent assez sensiblement la capacité d'épargne. Donc là, voilà. Après, c'est on va dire chacun, il faut le c'est le maximum. Il y en a pour qui aujourd'hui, il y a beaucoup d'expats aujourd'hui qui, voilà, c'est un choix de vie, d'avoir un environnement différent, etc. C'est un choix familial, etc. Mais il n'y a plus forcément ce confort, entre guillemets, financier ou matériel qui leur permet, voilà, d'envisager tous ces projets de placement, d'investissement, etc. Voilà. Donc, en tout cas, quand on le peut, ceux qui le peuvent, surtout quand s'ils ont pas encore d'enfants ou ils sont pas encore mariés, etc. C'est vraiment le moment en fait où il faut se prendre en main, parce qu'il viendra peut-être un moment où on sera plus en capacité de le faire, parce que quand on a trois enfants qu'on doit payer l'école aux Émirats, je veux dire, la capacité d'épargne, elle prend une sacrée claque, quoi.
Si on revient sur le
Voilà.
côté de bien poser ses objectifs. Peut-être que tu pourras donner des conseils par rapport à ça. Avant d'investir, savoir pourquoi on investit pour quels objectifs. C'est vrai que moi, de ce que je peux voir autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en France pour l'éducation de leurs enfants, même si, voilà, c'est pas, ils considèrent, quand tu leur poses la question, on va dire, quand leur enfant est encore fin de collège, début lycée, ils sont encore, oui, on va voir tel pays, etc. Mais vu qu'ils ne rentrent pas vraiment dans le sujet, ils rentrent qu'à partir de la première, ils commencent à regarder, du ouh là là, ça coûte cher. ça va être difficile et au final bah, ils se retrouvent en France parce que c'est trop cher et ils laissent tomber, ça vaut plus le coup parce que c'est pas préparé en avance, préparé en amont.
C'est clair.
Et c'est vrai que voilà, poser ses objectifs le plus tôt possible, c'est important. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour savoir, parce que quand on arrive, on rentre dans le marché du travail ou même on a la trentaine, on n'a pas forcément d'autres objectifs que d'avoir un bien immobilier. C'est des questions, est-ce qu'il y a une liste de questions à se poser pour savoir pourquoi est-ce qu'on investit, même dans l'immobilier, par exemple. On veut investir dans l'immobilier, tout le monde veut investir dans l'immobilier, mais parfois on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on veut vivre dedans? Est-ce qu'on ne veut pas vivre dedans? Est-ce que c'est pour le louer? Est-ce que c'est juste pour avoir un pied à terre? Tu as des conseils à donner par rapport à ça?
Bah, mon premier conseil, c'est j'ai envie de dire, mon premier conseil, c'est de se faire accompagner. Parce que bah, chacun son job, et les conseillers financiers, conseillers patrimoniaux sont là pour ça. Après, si on devait au moins les bases, d'abord, c'est les projets de vie. Donc d'abord, c'est se poser la question des projets de vie. Et si on n'a pas des idées claires là-dessus, parce qu'effectivement, à chaque fois, la logique, c'est toujours de travailler en temporalité, donc court terme, moyen terme, long terme. Et forcément, plus on s'éloigne, bah, plus les objectifs, ils sont flous. Parce que je peux dire, oui, à long terme, j'aimerais vivre, je sais pas, à tel endroit, ou arrêter mon travail, ou me mettre à temps partiel pour profiter de la vie, ou de faire je ne sais quoi, etc. Enfin, c'est lointain, donc en fait, il peut se passer tellement de choses entre-temps que mécaniquement, mettre en face des actions d'un point de vue patrimonial, etc., ce sera moins évident. Après, au moins, le court terme, moyen terme, ça, c'est un exercice que tout le monde doit pouvoir faire, même pour sa vie, de manière générale. Donc, ça commence par là, c'est les projets de vie. Et après, il faut garder en tête que souvent, ce qui va se passer, c'est que si les objectifs sont posés de manière plus claire, en fait, ça permet d'optimiser. Mais déjà, si on se dit, la base, c'est que je veux valoriser mon capital, je ne veux pas laisser mon argent dormir, je ne veux pas, je vais être un peu raisonnable et quand même ne pas dilapider, voilà, tout ce que je gagne, etc. Une fois qu'on a ça, je veux le faire en conformité avec mon éthique. Déjà, avec ça, le 80-20, il est couvert. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Après, si on pose des objectifs précis, on va pouvoir optimiser. Je te prends un exemple. Là récemment, j'étais par exemple avec des clients expatriés. Et donc, voilà, il y a un certain capital à placer. On parlait de 250 000 euros à peu près. Et donc, une question se posait de savoir si, bon, on a fait une stratégie un peu diversifiée et il y avait un volet notamment de placement sur un fonds immobilier que nous, on propose à nos clients, etc. Et eux, ils étaient très intéressés, etc. Et en fait, il y a deux possibilités pour investir dans le fonds. Une possibilité, c'est en ce qu'on appelle la pleine propriété, c'est-à-dire la souscription, l'investissement classique. Je prends des parts dans ce fonds immobilier. Du coup, je détiens à travers cela une partie du patrimoine immobilier du fonds. Et donc, je jouis des loyers qui sont distribués entre les investisseurs. Ça, c'est une possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de dire non, ce qu'on appelle le démembrement, la nue propriété. Donc, je renonce au loyer, d'accord, au profit d'un capital plus important à la fin. Et en fait, ça, tu vois, c'est plus rentable, la nue propriété. Mais par contre, la contrepartie, et donc la contrepartie, c'est que j'immobilise mon cash. D'accord? Le revenu, à la rigueur, souvent, ce n'est pas un sujet pour les expats parce qu'ils gagnent déjà bien leur vie. Donc, en fait, avoir des revenus en plus pendant leur carrière, là où ils sont au top de leur carrière pro, franchement, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, le fait de dire que l'argent, il est quasiment bloqué, il n'est pas bloqué, mais on va dire, il est beaucoup moins liquide pendant une période à définir, bah, mécaniquement, tu vois, ils ont dû faire l'exercice, ça leur a pris plusieurs semaines de s'asseoir, de faire des calculs, de se dire, alors attends, tel enfant, on aura besoin à tel moment, là, on veut faire ci, mais attends, mais s'il se passe ça, est-ce qu'on a quand même des... Oui, il nous a mis des parts de précaution, c'est là, d'accord, donc, tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment rentrés dans un exercice beaucoup plus poussé pour, à la fin, optimiser. Mais si ils avaient dit, OK, bon, bah, nous, on veut se fermer aucune porte, donc, en fait, on va faire la souscription classique, mais dans tous les cas, c'est déjà beaucoup mieux que de laisser l'argent dormir sur des comptes. Tu vois, quand je parle d'optimisation, c'est vraiment ça. C'est on va faire des choix beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. On va affiner les stratégies pour optimiser. Mais dans l'absolu, déjà, le fait de se prendre en main, de se dire, c'est bon, j'arrête de laisser dormir, je me mets quand même une proportion, tu vois, de mes revenus qui doit aller en épargne. Je vais sur des choses conformes à l'éthique musulmane. Je fais appel à un conseiller. Déjà, avec ça, tu as couvert 80% du sujet. Tu vois. Et après, c'est de l'optimisation.
Très bien. Il y a aussi le côté dont on n'a pas évoqué, c'est quand on est expatrié, essayer de profiter des avantages fiscaux. Je pense pas qu'on l'a évoqué, hein. Tu me coupes
Non,
là.
non, non, non. Effectivement, ouais. Mais il y a pas mal de dispositifs qui peuvent exister. Là, pour moi, ça rejoint à peu près la problématique, enfin le conseil que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de profiter des possibilités de financement immobilier en fonction de son pays de nationalité ou de résidence. Pour moi, ça rejoint ça parce que si tu veux, si j'habite à tel endroit, je suis résident fiscal, je vais pouvoir profiter de certains dispositifs localement. Ben, il faut que j'en profite. Et en plus, ça coche d'autres cases, diversification. En termes de géographique, diversification de devises, etc. Donc ça, il faut s'y intéresser, évidemment toujours avec le critère de la conformité éthique, mais il faut s'y intéresser. Et souvent, c'est vrai qu'on observe ça, on voit que les expats, en fait, ils sont pas vraiment au fait de ce qui est des possibilités qui leur sont offertes localement, parce que ils vivent leur truc un
Et ça
peu à
peut faire
distance.
économiser ou voilà, pas mal d'argent en général, hein.
Exactement, exactement. Et souvent, c'est des dispositifs en plus qui prévoient, par exemple, de pouvoir sortir. Au cas où je ne suis plus résident, etc. Donc, en fait, ça peut être très intéressant. Et de la même manière, par exemple, investir en France quand on est expatrié, bah, il faut savoir que la fiscalité en France est plus avantageuse pour un non-résident que pour un résident. Et ça, c'est fait pour driver, justement, attirer les investissements des Français qui, certes, ont quitté le territoire, mais du bon, au moins penser à nous pour investir, pour faire tourner l'économie française. Et donc, du coup, on peut profiter, en fait, de part et d'autre. Et il ne faut pas s'en priver.
Tu
Il
dis
faut
que
pas
c'est plus
s'en priver.
avantageux pour les expatriés, tu dis?
Ah oui, ah oui. Bah j'ai par exemple, si je suis ici, je suis sur une tranche d'imposition à 30, par exemple en France. Je suis à 30%. Bah je vais payer 30% plus la CSG CRDS de 17,2%. Je vais être à 47,2% d'impôt. C'est pas de l'impôt pur, mais il y a de l'impôt et il y a les contributions sociales. Si je suis expat, bah déjà sur la partie impôt pur, je vais être à 20% jusqu'à un certain seuil. Mais le seuil il est quand même assez élevé. Pour l'atteindre, il faut y aller quand même. Donc, je vais être à 20%. Donc, déjà, je gagne quasiment la moitié en termes d'impôts. Et puis, sur la partie contribution sociale, ça dépend en fonction de là où j'habite. Potentiellement, je peux avoir aussi un avantage. Donc, au maximum, je serai à 17,2. Potentiellement, je peux être en dessous, notamment si je suis, par exemple, dans l'espace économique européen. Donc, dans tous les cas, c'est plus intéressant. au niveau fiscal. Voilà.
D'accord.
Donc il faut en profiter autant localement que dans son pays d'origine, entre guillemets, en France, quoi. Voilà.
Maintenant, on va parler du cas particulier de la personne qui, voilà, un des objectifs, c'est de revenir en France un jour. Il sait qu'il va rentrer en
Ouais.
France, il ne sait pas quand, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, dans 20 ans.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? À quoi penser pour préparer son retour en France?
Ouais. Bah, déjà, tout le reste, alors je vais, premièrement, tout ce que j'ai évoqué jusque-là, donc il sera concerné mécaniquement. Comme j'ai dit, le fait d'investir localement, il faut juste faire attention à ce que ce soit pas, du coup, que ça ne le bloque pas pour son retour. C'est-à-dire si j'ai mobilisé beaucoup de cash, par exemple pour une acquisition là où je résidais, etc. Attention à ce que ça ne mette pas en péril le retour.
Oh,
Bah, j'ai
c'est-à-dire.
de l'argent, bah, j'ai investi dans un bien immobilier dans le Golfe et finalement je me dis bah j'avais prévu de rentrer, bah je vais rentrer. Aujourd'hui en termes de logement, je suis mal loti ou j'aurais voulu acheter ma résidence principale, mais j'ai pas le cash qu'il faut. Dans ces cas-là, le conseil ça va être quoi? De faire attention à alléger l'illiquidité de mes investissements, de mes placements, dans la perspective du retour. Il vaut mieux basculer sur des placements et investissements qui vont être plus liquides. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément.
Ouais. Juste par rapport à liquidité, c'est peut-être pas forcément très connu, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir récupérer l'argent le plus rapidement.
Exactement.
Parfois, l'argent, il est
Exactement.
investi, on ne peut pas y toucher pendant plusieurs années, et ce qu'on appelle
Exactement.
l'argent pas liquide ou peu liquide.
Et voilà, exactement. Donc ça va être le premier élément. Après, s'il y a des projets de retour qui sont connus suffisamment à l'avance, bah, vu que j'ai évoqué tout à l'heure le fait d'investir dans l'immobilier, par exemple en France, bah, dans ce cas-là, si je sais que j'investis avec une perspective de potentiel retour, peut-être que dans mes choix d'investissement, je vais l'intégrer. De la même manière que quand je débute ma carrière, par exemple, je vais pouvoir peut-être investir dans un bien. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Si je débarque aux Émirats et que je dis les Émirats parce que la plupart de mes clients expats sont là-bas, mais après un peu partout, je débarque là-bas, je me dis allez, je vais me lancer tout de suite dans l'acquisition d'un bien immobilier. Autant le faire parce que sinon je vais être locataire, je vais payer des loyers. Mais si je sais que je vais pas y rester ad vitam aeternam, il faut que j'intègre tout de suite des critères d'investissement locatif. C'est-à-dire il faut que je prenne un truc qui va être bien et pour moi aujourd'hui, mais qui va être bien aussi en location. Parce que si je prends le critère juste de la résidence, peut-être que je vais avoir des critères, un truc qui est impossible à louer. Parce que c'est mon petit plaisir perso, c'est là que je vais me sentir à l'aise, mais ça va pas bien se louer. Donc là, il faudra que je croise les deux critères pour faire mon investissement. Bah, c'est pareil dans l'autre sens. Si je pense revenir en France, et si je ne pense pas du tout revenir en France, bah, nous, nos conseils vont pas être les mêmes en termes d'investissement immobilier. Parce que dans un cas, on va être dans un investissement pur. C'est-à-dire, c'est un actif, on se fiche de où est-ce que c'est situé, de est-ce que ça peut accueillir ma famille ou pas, est-ce que ça peut accueillir mes enfants pour leurs études supérieures, on se fiche de tout ça. C'est uniquement un investissement pur, donc on regarde que les aspects voilà, de classiques de l'investissement, rentabilité, fiscalité, enfin tous les sujets. Et si par contre j'envisage un retour, ben alors à ce moment-là, il faut que j'intègre ces critères aussi. Voilà, donc ça, il faut être vigilant. Donc j'ai dit liquidité, les critères d'investissement. Et après, le troisième, ça, c'est pas ma spécialité à moi, même si en général, voilà, on essaye d'orienter un peu les gens, mais voilà, enfin, ce qui est pas ce qui relève pas du financier, quoi. Faut se poser beaucoup de questions avant le retour. On a vu pas mal de situations où les gens reviennent et ils sont pas bien et ils s'y retrouvent pas. La France qu'ils ont laissée et enfin bref. Après, ça relève de moi, c'est pas ma spécialité, moi, ça, mais j'observe. C'est juste quelque chose que je constate. C'est-à-dire, il y a un certain confort qui est acquis dans l'expatriation, parce que souvent on choisit des lieux d'expatriation ou des destinations où on va se sentir bien, où on va mettre sa famille à l'aise, etc. Et après, bah voilà, il y a des contraintes avec lesquelles on avait appris à composer des paramètres, des facteurs avec lesquels on avait appris à composer quand on était là. Là, on n'a plus envie, en fait. Et donc, le retour, il est parfois difficile. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes revenir et finalement repartir.
Ouais, non, c'est vrai. Aussi, j'ai entendu beaucoup.
Et ça, en fait, moi, ça ne me regarde pas, comme j'ai dit, ce n'est pas mon sujet de spécialité. Mais par contre, ça a des impacts d'un point de vue patrimonial, tu vois. Donc, il faut se poser ces questions-là. Il faut se les poser. Ça rentre dans les projets de vie, en fait. Et les projets de vie définissent après la stratégie patrimoniale. Donc, c'est en ça que j'ai pensé utile d'évoquer ce point-là.
Ouais. Il y a deux points sur lesquels j'aurais me focaliser que moi, enfin, je pense que c'est les deux questions en tout cas que moi je me pose, c'est voilà, avoir un pied-à-terre ou un logement dans le cas de peu importe le pays, mais disons la France dans ce cas-là. Et le deuxième, c'est si je cotise pas pour la retraite ou si je mets de côté, combien est-ce qu'on doit mettre de côté ou bien tu vois comment faire pour est-ce qu'on doit mettre de côté pour toute sa retraite ou enfin penser à si on enfin c'est vrai que tu on sait pas quand on va mourir, du coup on peut se dire parfois à quoi bon mettre autant de côté, mais en même temps si on voit la retraite arriver dans voilà dans 10-20 ans, on va pas arriver à la retraite et avoir juste avoir un capital aléatoire, tu vois, on sait même pas qu'on peut vivre avec. Donc comment gérer un peu ces questionnements-là de préparer la retraite, ouais.
En général, on règle ça avec des. Si tu veux, là, la question de se dire, je sais pas finalement de quoi je vais profiter. L'avantage quand on organise soi-même entre guillemets sa retraite, donc par capitalisation, c'est que on a des dispositifs qui permettent de faire en sorte que soit je vais en profiter moi si je vis, et sinon c'est ma famille qui va en profiter en fait. Alors que dans le voilà le système par répartition etc. En fait on cotise mais voilà en cas de décès ben certes il y a la pension de réversion par exemple si y a mon conjoint qui est là etc. Mais ça reste quand même assez limité donc je peux me retrouver à avoir cotisé tu vois pour 100 et à la fin d'avoir profité directement ou indirectement pour 30 ou 40 tu vois. Donc, par contre, quand je le fais par capitalisation, l'avantage, c'est que c'est nos limites. C'est-à-dire que c'est moi qui vais en profiter, ou ma famille, et ou ma famille. Donc, après, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va utiliser des dispositifs bien connus, classiques, donc, tels que l'assurance vie, par exemple, le démembrement. Donc, tout ce qui va être patrimoine immobilier, ben, au fil de l'eau, on va procéder à ce qu'on appelle, en fait, des donations. On va démembrer, donc, les biens immobiliers. Je pourrais pas détailler, désolé, mais voilà, je donne juste des petits trucs comme
Bien
ça.
sûr.
On va donner la nue propriété des biens immobiliers aux enfants et on va le faire par tranche de 15 ans parce que c'est 100 000 euros maximum qu'il faut pas dépasser tous les 15 ans au niveau des abattements pour ne pas payer des droits de donation ou de succession. Donc on va donner la nue propriété aux enfants. Nous, on va garder l'usufruit. Comme ça, bah, on profite des loyers qui viennent des apparts qu'on a achetés, des maisons qu'on a achetées, etc. Et en cas de décès, bah, en fait, les biens immobiliers vont se remembrer automatiquement entre les mains des nus propriétaires, c'est-à-dire les enfants. Donc, tu vois, là, les deux scénarios sont couverts. Soit moi, je vis, bah, je vais en profiter jusqu'à ma mort. Et au moment où je décède, bah, en fait, c'est mes enfants qui vont en profiter et de manière optimale, puisque, en fait, il y aura aucun frottement. Ni fiscal, ni même administratif, tu vois. Ça, c'est pour les biens immobiliers. Et après, sur la partie placement financier, on va quand même pas mal utiliser le levier de l'assurance vie et qui permet exactement le même système, c'est-à-dire que sans même parler de démembrement, on va tout simplement en fait désigner nos bénéficiaires en cas de décès dans notre contrat d'assurance vie, alimenter notre contrat d'assurance vie. Au cas où je vis, bah, je vais profiter des revenus de mes placements qui vont me faire un complément de retraite bah, jusqu'à mon décès. Et de manière optimisée d'un point de vue fiscal. Et par contre, si je décède, au moment où je décède, bah en fait, y a un tuyau de 152 500 euros pour chaque bénéficiaire que j'ai nommé dans mon contrat, qui hériteront de cela sans aucune friction.
Ouais.
Donc, il y a des dispositifs et j'ai envie de dire
Sans friction, c'est sans impôts dessus.
sans impôts, parfois même sans démarche administrative.
Ouais.
Sans frais, rien du tout.
Sachant qu'en France, il y a enfin lors du décès, les enfants sont déduits d'impôts jusqu'à 100 000 euros pour les premiers 100 000 euros. Et après,
C'est ça.
c'est fiscalisé de manière assez importante très rapidement. Et là, si on
C'est
rajoute
ça.
une assurance vie, ça c'est un bon petit tuyau, c'est qu'il y a encore 100, tu as dit combien? 120 000 euros.
152 500 euros pour chaque bénéficiaire. Voilà.
Donc, si l'argent est bien placé, on peut avoir 250 000 euros par, et quelques par aucune fiscalité pour les enfants.
Exactement.
Donc, oui, ouvrir une assurance vie, ça, on avait déjà parlé en off, c'est quelque chose qui est très intéressant pour ceux qui veulent rentrer en France, donc à se renseigner sur ce sujet-là. Il y a des assurances vie où faire attention, bien
Exactement.
sûr, et qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane, donc il faut se renseigner. D'ailleurs, il n'y en a
Nous,
pas beaucoup qui sont.
c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients, et on a même aussi la possibilité d'opter pour un contrat luxembourgeois. qui offre encore d'autres avantages, notamment si la personne a pour projet de rester expatrié ou bien de revenir en France, mais peut-être sur une période limitée. Par exemple, il y en a qui me disent, je rentre en France pour accompagner mes enfants dans le cadre des études supérieures. Donc, je veux profiter de ma période d'expatriation pendant le pic de ma carrière pour capitaliser un maximum. Ensuite, je rentre avec mes enfants en France. Je sais que je vais avoir des revenus un peu moins élevés, etc. Mais c'est un autre projet, c'est une phase de ma vie où je veux être auprès de mes enfants, leurs études supérieures, les accompagner, etc. Et après, quand je passe sur la phase retraite, là, j'envisage très sérieusement de nouveau une expatriation. Peut-être pas là où j'étais pour le boulot, peut-être ailleurs. Si je prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi je suis aux Émirats, j'étais en France, je vais rentrer en France pendant quelques temps pour les enfants. Ensuite, quand j'ai bouclé ce que j'ai à boucler avec les enfants, chacun est sur les rails, ils sont mariés, ils ont fait leur vie. Moi, après, je retourne finir ma vie tranquillou à la plage au Maroc, tu vois. Donc voilà, si on sait qu'on a des projets de réexpatriation, entre guillemets, après, le contrat luxembourgeois peut être très indiqué. Et tu vois, là encore, on est sur un exemple d'optimisation. Si on sait qu'on peut affiner les objectifs de long terme, on peut encore pousser un cran plus loin, l'optimisation.
D'où l'importance de bien préparer, mais comme tu dis, ça c'est un cran au-dessus. Déjà, investir son argent, c'est déjà pas mal. On va
C'est
finir
ça.
sur un dernier point. Peut-être auquel les gens ne pensent pas suffisamment, je pense, parce que quand on est à l'étranger, qu'on travaille, on a un peu la tête dans le guidon. C'est le mariage et le contrat de, comment dire, l'héritage en cas de décès. Quelque chose qui n'est jamais, en général, pas préparé. Est-ce que tu as des points à dire par rapport à ça qui peuvent poser problème,
Oui,
en cas de divorce, par exemple, ou autre
ça,
chose, ou de
tout à
décès?
fait. C'est un très bon point. C'est un très bon point que tu soulèves. Déjà de manière générale, c'est un sujet qui est très peu connu, et c'est d'autant plus vrai en fait pour les expats. Pourquoi? Parce que le fait d'être expatrié va impliquer en fait ce qu'on appelle des problématiques d'extranéité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui s'est marié en France, mais ensuite qui est parti à l'étranger, bah, en fait, en fonction du nombre d'années qu'il a passé en étranger, peut-être la loi applicable à son mariage, elle peut changer. La loi applicable à son décès peut changer. Et donc, pour pas dire la totalité, donc la quasi-totalité des expatriés qu'on accompagne, quand ils arrivent chez nous et qu'on démarre la mission avec eux, et c'est des sujets qu'ils n'ont pas couverts. Donc du coup, ils savent pas en fait. Ils savent pas demain si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la loi du pays où je réside qui va s'appliquer en termes de succession? Est-ce que ça me convient? Ça me convient pas? Est-ce que j'ai des moyens de prévoir ça, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle une déclaration de loi applicable pour choisir en fait la loi que je veux voir appliquer à mon décès? Pareil pour mon mariage, etc. Donc c'est des vraies vraies questions. Et là, pareil, on pourrait faire une heure là-dessus, hein, mais c'est pas l'objet.
Ouais,
Mais en tout cas,
juste pour
pour dire que
sensibiliser, ouais, juste pour dire que
c'est
c'est un point
sensibiliser
important.
exactement. C'est un vrai point important, et toujours cette difficulté qu'on a, c'est normal, c'est que le patrimoine, c'est des questions, en fait, on prépare l'avenir, mais plus on se pose des questions tôt, et plus, en fait, c'est facile d'organiser les choses. Et le problème, c'est que tôt, bah, on est occupé à autre chose, quoi. On se pose pas la question de qu'est-ce qui va se passer si je meurs. Voilà. Moi, par exemple, qui accompagne les sportifs, c'est très difficile. Ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et tu leur dis, bah, il faut prévoir le décès. Mais ils te regardent, mais de quoi ils me parlent? 23 ans, il faut que je pense à mon décès. Ah ouais, testament, truc. Ah ouais, en plus, je joue à l'étranger, donc il faut que la loi applicable en cas de décès. Et puis en cas de mariage, attention, il faut faire ci, faire ça. Tu vois, il a envie de te dire, laisse-moi vivre ma vie, s'il te plaît, tu vois. Toi, tu me parles que des, tu me parles de problèmes. Mais c'est comme
J'ai eu
ça.
le cas voilà, des amis voilà, qui ont bien vécu leur vie, qui doivent avoir la cinquantaine, un couple quoi, qui a bien mis de côté, etc., qui a un bon patrimoine. Les deux personnes travaillent, c'est l'homme qui s'occupe un petit peu voilà, d'investir, etc. Ils se sont rendus compte en allant voir assez tard voilà, un conseiller en gestion de patrimoine que voilà, si le mari s'était amené à décéder ou s'il y avait le moindre problème, bah, la femme perdait une grosse partie du patrimoine parce que c'était mal organisé. Et du coup, ben, ils se sont réorganisés pour faire changer les choses. Par exemple, même au niveau aussi du contrat de mariage, en général, on est marié en communauté de biens en France.
Tout à fait.
Et il y a la problématique du fait que, voilà, que les biens, si on fait appliquer la loi française, que les biens sont partagés aux personnes, peut-être que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui ne nous arrange pas. pour plusieurs raisons, hein. Première raison, c'est parce que c'est assez éloigné du concept, on va dire, islamique, de la répartition islamique. Peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions qui sont plus avantageuses, où on veut préserver le patrimoine de la femme, par exemple, qui n'est pas géré de la même manière. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes. Et moi, je vois des personnes qui s'approchent de la retraite et qui se posent ces questions assez tard. Et si on veut faire changer ça tard, c'est plus difficile souvent.
Tout à fait.
Ouais.
C'est plus difficile et c'est très coûteux parce que
Exactement.
un changement de régime matrimonial, ça veut dire voilà, commencer à, on va les toucher à ce qu'on appelle les masses, donc les biens propres, les biens communs. Et on va typiquement, bah, les biens communs, il va falloir le disloquer dans les masses propres, donc dans les biens propres. Ce qui a été acquis en commun depuis le mariage, eh ben il va falloir le dispatcher en fait entre les deux époux. Et en fait, ça implique souvent, bah, des transferts de propriété, etc. Et donc des coûts. Donc c'est souvent très 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 cher. Donc encore une fois, si on le fait tout au début, quand on démarre, bah, il n'y a pas encore de patrimoine, on vient de démarrer, bah, tout est fluide. Les tuyaux sont prêts, tout est en place. Quand on le fait après, en général, ça coûte. Et ça coûte d'un point de vue du temps, d'un point de vue des frais, d'un point de vue fiscal souvent. Et puis ça coûte aussi émotionnellement, hein.
Oui, les discussions peuvent être
Attention, parce
difficiles
que,
aussi, oui.
ah oui, les discussions peuvent être très compliquées. Très, très compliquées. Alors, si on a posé les bases dès le départ d'un commun accord et tout, bah, c'est fluide.
Très bien, bah, écoute, Amine, on a beaucoup discuté, on a couvert beaucoup de sujets.
Ouais,
J'espère qu'au niveau
j'adore.
des expatriés, ça a au moins, voilà, ça a ouvert un peu les questionnements internes. Bon, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser. On n'est pas allé trop dans le technique, mais voilà, on a ouvert quelques pistes. Voilà, que je te remercie, Amine, pour ça.
Magnifique.
Et voilà, donc on va finir par quelques petites questions que j'ai pu déposer à la fin de l'interview, Amine, très rapidement. Quelles sont les compétences, toi, tu travers ton expérience, que tu trouves le plus utile au travail, dans la vie de tous les jours?
Les compétences, ben d'abord les compétences soft, d'abord les compétences soft. Ben, c'est ma conviction. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant les soft skills. On a l'impression de découvrir ça. Il y a des formations pour ça, pour développer sa résilience, sa capacité d'adaptation, sa capacité d'écoute. Etc. Et en fait, tout ça fait partie de l'éducation islamique, en fait. Donc, je trouve que ça, c'est le principal enjeu. Quand on a ça, après, les hard skills, ça s'apprend, on peut se former, ça s'achète. Donc, d'abord les soft skills et à travers les modèles qui sont les nôtres.
Très bien. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail, toi, personnellement?
La chose que je préfère, moi, j'ai la chance de faire d'avoir un job, en fait, où j'ai vraiment le sentiment d'être utile aux gens. Et je pense que c'est la chose que je préfère. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, je me dis que, enfin, aujourd'hui, voilà, aller faire un job où, attention, duty, c'est duty, hein, on doit faire son job. Et d'abord, c'est pour, voilà, pour avoir de quoi subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Mais ce bonus, ce qui était un bonus au départ, de se dire, bah, en plus, on peut se sentir utile, contribuer à quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus un bonus, c'est une condition sine qua non pour moi. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai aujourd'hui.
Très bien. Est-ce que tu as une ou plusieurs routines qui te tiennent à cœur, qui t'aident à progresser?
Alors, qui m'aide à progresser? Oui, bah, les routines qu'on doit tous avoir, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais sinon, oui, les petites routines, moi, c'est soit marcher ou faire du vélo. En tout cas, essayer d'opter pour des trajets, en fait, où on peut avoir un petit peu de temps, même si c'est un peu plus long. Voilà, pour s'autoriser à prendre un peu de donner un peu d'air à son cerveau, donner un peu d'air à son cœur. Voilà, je pense que ça permet de. J'ai pas lu tous les articles qui
Sur
décrivent
davantage.
scientifiquement, voilà, ce que ça peut apporter au cerveau, etc. Je l'ai juste par la pratique expérimenté, et je vois à quel point sa capacité de problem solving, etc. Elle est décuplée en fait. On trouve des solutions à des problèmes sans s'en rendre compte, juste en marchant en bord de Seine. Et puis en plus, ça fait juste du bien en fait. Voilà, donc ça, c'est une routine à laquelle je m'attache. Ouais.
Super. Si tu as une recommandation de livre, de documentaire ou de référence qui t'ont particulièrement marqué?
Bah, excuse-moi, Abdelrahman, j'ai une deuxième routine que j'aimerais évoquer
Vas-y,
parce que
je te
sinon j'aurais
laisse.
l'impression d'avoir été.
Pas
La
de
deuxième
souci.
routine, c'est de parler avec, d'avoir des connexions avec des gens qui vivent complètement autre chose que ce que nous on vit. Ça, c'est un truc aussi auquel je m'attache. Parfois, les gens, je vois des fois dans ma ville, par exemple à la mosquée, où je parle des fois avec des gens. Je me demande en fait c'est quoi, t'as passé une demi-heure avec le Shibani là, c'est pourquoi en fait, c'est qui, c'est quelqu'un de ta famille, c'est non en fait c'est, en fait c'est, si on parle toujours avec les personnes qui vivent la même chose que nous, soit on n'apprécie pas, soit on n'apprécie plus, on n'a pas, on connaît pas la valeur, ou bien on se remet pas en question, on perd en humilité, en modestie, on oublie les vraies priorités de la vie, voilà. Et donc moi je fais ça assez régulièrement. Chaque fois que j'ai l'occasion, c'est ce que je fais. Quand je vais dans un mariage, je suis invité dans un mariage, je m'assois pas à la table des cadres dynamiques. Je m'assois à la table des,
Des
je m'assois
potentiels
à la table
clients.
des Chibani. Voilà. Je m'assois à la table des Chibani. Parce que, voilà, ça permet de voir autre chose, tellement de remises en question. C'est, voilà. Très riche. Voilà. C'est juste ce que je voulais compléter sur ça.
Ah, c'est intéressant, bah, Clofic. Je te disais du coup, est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire ou quoi que ce soit, qui t'ont particulièrement marqué récemment ou il y a longtemps?
Il y a longtemps, ben moi, ce qui a pas mal, ce qui m'a pas mal bousculé dans mon engagement, etc. C'était c'est Full Express. Donc j'en profite pour une dédicace pour mon grand frère et bien-aimé Marwan.
Arwan.
Ouais, Marwan Mohamed. C'est arrivé à point nommé pour moi dans mon cheminement et voilà, je citerai celui-là.
Génial, génial, génial. Marwan qui est passé par le podcast d'ailleurs, qui a son interview, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et enfin, dernière question, Amine, si un auditeur ou une auditrice a une question, voilà, souhaite te contacter, souhaite te poser une question sur voilà, orientation, n'importe quoi, voilà, par rapport à cet épisode, est-ce que c'est possible et comment faire?
Oui, bien sûr. Moi, je suis joignable sur, enfin, sur LinkedIn. Donc, c'est avec grand plaisir pour échanger. J'essaie de me rendre disponible tant que possible. Donc, faut pas hésiter.
Très bien, je mettrai ça en description, Inch'Allah. En tout cas, Amine, je te remercie beaucoup. C'est un sujet voilà, qui, chez les expats, qui revient souvent et qui n'est pas bien traité. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de contenu par rapport à ça. Et j'espère qu'à travers cet épisode, ça va un petit peu voilà, aider les personnes qui sont à la recherche de solutions, ou, voilà, de trajectoires, de questionnements, de réponses, un début de réponse en tout cas. Par rapport à cette problématique-là. Je te remercie aussi par le travail que tu fais, toi, Yanas, et toute l'équipe chez 577i, ConnexCap. C'est un travail, les gens ne se rendent pas compte, qui est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de solutions en France, très peu de solutions, c'est très difficile, c'est un contexte difficile. Ils font un travail monstre. Ils sont souvent pris d'assaut, on va dire. Ils peuvent avoir des difficultés. Alhamdoulilah, ils ont tenu tout ce temps-là. Et ça commence à vraiment apporter ses fruits, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je vois de mon regard extérieur. Et je suis très content pour vous, j'espère que Dieu va mettre sa baraka. Et faites-leur des doigts, parce que les services qu'ils proposent sont bénéfiques pour toute la Oumma.
Ça me touche beaucoup, je te remercie. Allah
Je
te
te remercie.
récompense.
Amine, de toute façon, on a l'habitude, hein, on reste en contact.
Yes.
J'espère te revoir très bientôt. Je te remercie. Je te souhaite un grand salam et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.